Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a commencé par accompagner sa fille à l'école et l'accompagne aujourd'hui au théâtre, Michel Bernier.
Bonjour.
Une grosse tête tout autant tentatrice que cantatrice, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a fait une école de journaliste pour finir par faire des canards en chantant à la radio, Christophe Beaugrand.
Bonjour.
Une grosse tête qui ne pèse pas ses mots afin de rester léger, Laurent Baffy.
Bonjour.
Une grosse tête qui revient de Tahiti et qui va bientôt exporter son deuxième degré à Londres, Elie Semoun. Et enfin, une grosse tête qu'on espère plus en forme que le Paris Saint-Germain, s'il veut conserver son titre de champion de bonne réponse, Florian Gazan.
Bonjour.
Vous étiez au Parc des Princes hier soir, alors.
J'étais derrière le banc du PSG, je disais à Laurent Blanc de faire des changements, il les a pas fait. Il a vu le résultat.
Ah, c'est vrai, il a mal coaché.
Ah, pour moi, il a très mal coaché. Bon, vous voulez qu'on rentre dans cette discussion technico-technique?
Non, non.
Ouais. C'était quoi comme match hier, pardon?
C'était Paris Saint-Germain, Manchester City.
Mais
match allé des quarts de finale. 2-2, ils ont fait.
Ah, bah, c'est pas
ça,
mal.
Ça va.
S'ils font 3-3 au match retour, ils sont qualifiés.
Bah, oui, bien sûr, évidemment.
Là, il n'y en a que deux qui comprennent, de toute façon, aujourd'hui. Hein.
Comment ça?
Bah, Laurent et Florian.
Non, Ariel Dombal suit le football, je suis certain. Ah, Ariel.
Non, je dis.
Je n'irai pas jusque-là.
Non, mais je dis toujours la même chose. Que c'est le plus grand parterre de milliardaires.
Ah oui.
Mais bon, voilà, je dis ça. Oui, oui, mais c'est vrai. Les plus grands milliardaires se trouvent là.
J'en ai vu des pétasses désintéressées, mais quoi.
S'il faut aller dans les vestiaires pour se marier, c'est ça?
Ouais.
Vous voulez par là dire que vous seriez intéressé?
Non, 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 mais je trouve ça.
Je vous vois bien avec Ribéry, vous.
Non,
j'imagine
mais,
les
mais,
discussions.
Non, mais je dois dire quand même que là, il y a eu 2-2, et si j'ai bien compris. Donc, s'ils veulent continuer dans la Ligue, c'est ça ce qu'on dit?
Je ne sais pas.
Bon,
s'ils veulent continuer à jouer.
Dans la Coupe d'Europe des Champions, oui.
Voilà, là, ils sont borderline. S'ils perdent le prochain match, ils ne sont plus dans je ne sais quoi.
Et, ah bah, ils n'iront pas au tour d'après, c'est-à-dire
en demi-finale.
En demi-finale.
Ouais. Là, ils sont en quart, quand même.
Là, ils sont en quart.
Voilà.
Et généralement, les footballeurs français, ils ne descendent pas du quart.
Non.
C'est une habitude.
Ouais. Allez. Une première citation pour Bertrand Rodier, qui habite le Chélas dans l'Isère, qui a dit « En gros, les religions sont toutes les mêmes, une grosse part de culpabilité et différentes dates de vacances. » Jean-Yann, non, mais
Jacques
pas
Martin.
Loin. Jacques Martin, bonne réponse de Laurent Baffy. Qui a dit « Je me disais qu'une femme choisissant le plus vilain des chiens, c'était comme si elle me choisissait une deuxième fois. »
Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg, non, mais c'est pas si loin.
Dutronc.
Et ce sera une citation pour Bernard Bouguignon qui habite Sainte-Fortunade.
Jacques Dutronc,
non.
C'est un Français.
C'est un Français.
Chanteur.
Chanteur, pas tout à fait, un petit peu, mais pas
Petrucciani.
Tout à fait. Non.
Oh,
c'est vrai qu'il ressemble à un Chihuahua. Il ressemble à un Chihuahua.
Un Carlin.
Ouais. Grand corps malade.
Grand corps malade, non. Mais
petit corps bien portant.
Non, mais.
Non, mais est-ce qu'il a... c'est quelqu'un qui a un physique difficile.
Encore malade.
Non, mais c'est un surnom qui pourrait lui aller aussi, évidemment.
Ah, c'est un handicapé.
Non, il n'est pas handicapé du tout.
Joe Star?
Non, c'est pas Joe Star.
Vas-y, c'est moi.
Oh, c'est un compositeur?
Joe Star dans La Nouvelle Star, mais c'est pas possible.
Ah oui, bah,
c'est génial.
On sent qu'il aime les candidats.
je dis vive le direct. Hein.
Ah oui, c'est magique.
Ah non, mais ils vont pas les garder, c'est pas possible. Si.
Pourquoi ils les défoncent tous?
Non, mais c'est même pas ça, ils s'intéressent pas à l'émission.
Il
appuie pas sur le bouton, il appuie bleu quand il pense rouge.
Il est vautré dans son bleu.
Je voudrais voir Laurent avec des bouteilles de rhum dans le corps.
C'est-à-dire qu'au début de l'émission, ça allait, mais on sentait qu'il y avait pas que de l'eau dans le petit verre.
Il commence un commentaire, ça dure 15 minutes. Il y a les trois autres jurés qui commencent à s'énerver, à s'impatienter en disant bon, bah ça y est, t'as fini. Non, j'ai pas fini. Alors ils osent pas. Branchés,
ils ont, non, ils ont peur.
En fait, ils ont peur.
Ils ont peur.
Mais tout le monde a peur. Les gens n'osent même pas chanter quand ils ont.
Moi, j'osais même pas zapper.
Rires.
Bon, on revient à la citation.
Alors, est-ce que c'est un compositeur ?
Alors, un compositeur, non.
Il est mort ou il est vivant ?
Ah non, il est bien vivant. Enfin, bien vivant. Il est vivant.
Mais on... Bien vivant. Ah, Johnny !
Non, mais c'est lui-même qui vous dirait s'il était là. Bon, bah, qu'il a connu des meilleures périodes.
Renault.
Non, c'est pas Renault, non.
Peugeot.
Il a connu des meilleures
Je
périodes.
Je me disais qu'une femme choisissant le plus vilain des chiens, c'était comme si elle me choisissait une deuxième fois. C'est tiré d'un de ses ouvrages.
Ah, il a écrit. C'est un écrivain.
Car il a écrit aussi. Ce n'est pas un écrivain, mais il a écrit aussi. Enfin, lui, vous dirait que c'est un écrivain. Moi aussi,
Pierre
je vous
Perret.
Dis. Non, c'est pas Pierre Perret, mais c'est pas un écrivain. Il est avant tout...
Il est pas chanteur.
Comédien.
Comédien. Avant tout, comédien.
Pierre Richard.
Pierre Richard, non.
Est-ce qu'il est dans le creux de la vague ?
Pierre Richard, il va bien, Pierre Richard.
Il a eu un cancer il n'y a pas longtemps.
Pierre Richard ?
Non, le gars dont vous parlez.
Le gars dont...
Oh, non, comment
le, l'acteur.
Boringer.
Voilà. Boringer. C'est ça ?
Boringer. Boringer, bonne réponse d'Élie Semoun et Laurent Baffi. C'était bien Richard Boringer. Qu'est-ce qui est agréable.
On pense cancer, on dit Boringer.
Ah, c'est horrible.
C'est ça, genre, ah oh, oui, il a eu
bah
un
oui,
cancer.
Mais je crois qu'il a eu une.
Avec la carrière qu'il a fait.
Bah, il n'est pas très bien portant, Richard.
C'est vrai, c'est vrai,
mais
c'est
il
vrai.
Est sur scène en ce moment,
oui, oui.
Autant vous le dire, au théâtre de l'Atelier.
Il chante J'ai la rate qui se dit là.
Non,
non, il chante I Will Survive.
Avec Renault en première partie.
Non. T'imagines en
ça sortant... s'appelle Born to be Alive.
T'imagines en sortant, j'ai adoré votre concert, Richard. C'est génial.
Grand Corps Malade, le groupe.
La comédie musicale.
Il y a écrit prolongation, mais pas sûr.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Il y a écrit concert généralisé.
Sur l'affiche, ils ont.
Quelle horreur. C'est horrible.
Sur l'affiche, ils ont rayé Jean-Pierre Coff.
Et en haut, il y a marqué « Plus drôle que moi, tu meurs ».
Oh non, écoutez, arrêtez.
Non, mais c'est un grand concert rock éclair, il faut aller vite.
En plus, c'est des gens qu'on adore, on les aime.
Et c'est bien pour ça qu'on rigole.
Moi, je suis allé les voir au crématorium. Et... Ah,
c'est bien.
Ah, c'est une belle salle, ouais. Ah, ouais.
Ça chauffe, hein. Ah, ben... ah, ouais.
Une question culturelle pour Sophie Duponchel qui habite Versailles. Je compte sur vous, Ariel Dombal.
Il est en train de discuter, monsieur Semoun, c'est scandaleux.
Non, j'étais en train de raconter une histoire. Je me suis trompée. Un jour, je voulais appeler un copain qui s'appelle Renaud et je suis tombée sur le vrai Renaud.
Oui.
En fait, je ne savais pas quoi lui dire je me suis trompée de numéro, etc. Donc, lâchement, j'ai raccroché. Et lui, il a dû oublier qui j'étais, donc il m'a rappelé.
Comme tout le monde.
Il m'a laissé
hein.
un message d'insulte fantastique que j'ai, mais non, je ne vais pas vous faire écouter. Mais
ah
c'est
si,
fantastique.
Si, ah si, c'est génial.
Tu l'as gardé ?
Bon, attendez, laissez-moi deux secondes.
Alors. Ah oui, c'est génial.
Mais je sais pas, non,
mais
franchement, là,
c'est.
Que
mais
je suis en train
mais
de
pourquoi
faire.
D'insulte ?
Alors écoutez.
Tu t'appelles Élie, je connais pas d'Élie. Bon, vous con, va. Bah. Arrête de faire chier. Arrête de rappeler ici. Va te faire enculer, connard.
Non, mais on l'entend pas bien. Non,
ah si, on a entendu non, ce qu'il fallait quand même.
C'est bien,
c'est fantastique.
Maintenant, mettez-nous un truc de Dieudonné.
Non, mais à vous. Non, mais c'est collecteur quand même.
Mais c'est collecteur.
Ils sont super, tes amis.
Salut, sombre connard. Je connais pas Denis, va te faire enculer, connard.
C'est génial.
Toujours vivant. Ah,
toujours le mot Michel Banane.
Mais connard, ça rime avec Ricard. Hein, donc, ça...
Il est génial.
Non, mais le pauvre, non, mais il avait sûrement dû oublier que voilà.
Mais oui.
Il sera, ça fait des années qu'on ne s'est pas appelé. Donc il s'est dit, c'est un connard qui s'appelle Élie. Ouais.
Non, voilà, je pense qu'il savait très bien que c'était
lui. Non.
Il a peut-être vu ton spectacle.
Alors moi, ça m'est arrivé
c'est fantastique.
Avec Richard Taxi. Vous vous souvenez de
cet oui, très bien.
Cet acteur
oui.
qui s'appelait Richard Taxi.
Il s'appelle Hubert
maintenant. Il s'appelle toujours.
Non, il s'appelle Hubert, il dit ma fille. Non, mais alors, j'étais à l'époque, je travaillais à France Inter très tôt le matin, j'animais l'émission de France Inter, là, rien à cirer, j'avais de la famille qui voulait venir me voir et je les avais laissés à la maison, ils dormaient, mais moi je partais très tôt. Et ma belle-sœur à l'époque a cherché dans l'agenda, parce qu'on avait encore à l'époque des répertoires sous le téléphone, vous savez.
Exact.
Et donc elle cherche pour prendre un taxi pour aller à la maison de la radio. Et elle cherche dans le répertoire, elle voit un taxi, il est quand même 8 heures du mat. Hein. Et elle appelle, et là elle tombe sur le comédien. furax de qu'on le réveille un dimanche matin. C'est un dimanche. Un dimanche matin à 8h. Ouais.
Puis ça a dû lui arriver souvent.
Mais
s'il
lui,
taxi.
Il y a une époque, quand il y avait encore la SFP à Paris dans le 19e, il y avait eu des attentats à l'époque. Et c'était, c'était donc, il fallait donner sa carte d'identité à chaque fois qu'on sortait, on rentrait. Et Richard tournait une émission et il sort dehors faire une course, je sais pas quoi. Il revient, le vigile lui dit... il faut me donner votre pièce d'identité. Il fait, bon, bah, ça va, je suis taxi. Et le mec dit, bah, justement, allez attendre votre client dehors.
Ah, c'est génial. Les attentats, ça n'existait pas les djihadistes à l'époque.
C'était hein d'autres.
Mais avec les téléphones, il y a parfois des problèmes. Une fois, j'ai eu un date avec un garçon avec qui j'avais discuté
quoi
sur Internet.
Un date. Quoi? Un garçon? Quoi? Ça veut dire un doigté en français.
Non, mais non. Ah, mais non, pas du tout.
Un jour, j'avais un doigté avec un copain.
Ouais. C'était...
C'est droit. Un jour, j'avais rendez-vous pour un doigté. Et puis,
non, pas du tout.
Et ce soir, je mets les petits
doigts.
C'était dans un restaurant.
Et ce soir, je mets les petits doigts dans les grands. Hein.
Je voulais dire avec les flics, tu lui as pas posé une main courante.
C'est je voulais dire à rendez-vous.
C'est comme si je disais, non, j'avais rendez-vous avec une chatte là, la semaine dernière. Et puis...
Mais non, vous m'avez mal compris.
Tu avais une date.
Si, on a très bien compris.
Un rendez-vous pour faire connaissance avec cette personne avec qui j'avais parlé sur Internet. Et là, je le vois en vrai, on discute un peu. Et je me faisais chier comme un rat mort. À un moment donné, je dis.
Il va être content de vous entendre.
Non mais il y a eu pire après. J'allais aux toilettes deux minutes et là j'ai envoyé un texto à un pote en lui disant je suis avec machin, oh là là la purge. Et je l'ai envoyé au mec qui était de l'autre côté en fait par erreur.
Ah bah oh, oui ça ça arrive tout le temps, tout le temps.
Et là
t'es revenu, t'as dit excuse-moi j'avais une gastro.
Mais j'osais plus sortir des toilettes à vrai dire. Oui. Donc j'y ai passé un petit moment en me disant comment je vais m'en sortir. Et là je reviens, heureusement il n'avait pas sorti son téléphone.
Ah, là.
Du coup il m'a rappelé.
Ou il l'avait re-rangé.
Oui. Non, parce qu'il était hyper souriant, hyper en forme, etc. Puis après je lui ai dit au revoir et puis 2 heures après j'ai eu un texto. Texto d'insulte.
Mais moi ça m'est arrivé, je l'ai raconté l'autre jour avec une invitée dont on n'est pas couché. Ça c'est le pire qui puisse arriver.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On est à quelques jours de la diffusion.
Je sais qui c'est.
C'est quelqu'un qui vient pour publier un livre et j'envoie un texto.
Une femme.
C'était la saison dernière. J'envoie un texto à Léa Salamé en disant.
Oh non. Ah oui.
Dis donc, t'as lu son livre, t'as vu comme c'est pathétique, la pauvre.
Et vous l'envoyez à la...
une actrice.
Et vous l'envoyez à l'actrice alors.
Et je, d'un seul coup, je... et là tu t'as personne et c'est trop tard, t'as beau
mais
faire
c'est
tout.
Fini. Ah,
t'essayes d'appuyer, t'essayes.
Oui, 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 et en plus t'as l'accusé de réception, c'est marqué lu. Ouais.
Oh, et là, ce que j'ai jamais raconté, c'est la suite. C'est que elle me répond parce qu'elle ne sait pas qui lui envoie ce texto. Car moi, j'avais son numéro depuis longtemps, mais j'avais changé de numéro. Je venais de changer de numéro, c'était il y a 2-3 ans. Je venais de changer de numéro de téléphone. Donc elle ne sait pas.
C'est quoi le nouveau ?
Elle ne sait pas qui lui a envoyé ce texto. Et donc elle me répond, maligne quand même. Elle me répond, oui, tu as raison. Je me dis, tiens, ça c'est bizarre.
Pour te pousser à en dire plus.
Et donc je vérifie auprès de copains si c'est. Parce que j'étais pas sûr que ce soit elle aussi toujours le même numéro, mais hélas, c'était bien le même numéro. Très focus, c'est ce que j'ai répondu à où tu as raison. Je suis pourquoi tu dis ça?
Ah, quel focus.
Ah, ouais. Oh, c'est horrible.
Vous envoyez beaucoup de textos, Ariel, vous?
Ouais.
Moi, j'adore les textos. C'est ça me donne des frissons.
Et des textos.
Ah, ah bah dites donc, je vous en ai envoyé un hier, vous m'avez pas répondu.
Elle a trop frissonné.
Vous voulez non, que je non, mais je ne l'ai pas reçu parce que j'étais en studio.
Moi, j'en ai un de toi, je veux te bouffer le bas. Je ne veux pas tout révéler, mais...
Et ça ne donne pas que des frissons, ouais. Hein, je te le dis.
Ça, c'est parce que vous êtes sur vibreur.
Pourquoi vous n'avez pas répondu
Non, mais hier. Parce que j'étais en studio.
Je lui fais un petit compliment par texto. Ouais. Hein, voyez.
Ouais. Tu as grossi.
Tu as dû prendre 10 grammes, c'est horrible.
Et rien, j'ai attendu toute la soirée qu'on me rappelle, rien.
Oh, mais jamais j'aurais fait ça. C'est parce que...
Vous l'avez peut-être envoyé à Agnès Sorin.
Vous dites ça à cause de la rime, bien sûr.
Bien sûr,
bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr. Oui. Ariel, Dombal, Agnès Sorel. On peut confondre.
Il n'y avait pas malice.
C'est pas, ça ne peut pas être avec Léa Salamé.
Non. Mais non.
Et alors, quand même, j'attends toujours. Hein.
Non, mais.
Vous étiez où pour ne pas me répondre
mais
comme
j'étais
ça
en studio, et c'est vrai.
En studio,
en train d'enregistrer des nouvelles chansons.
Non, j'étais en train d'enregistrer mon prochain album.
Ah
La Rivière Atlantique.
Le dernier, t'as pas suffi.
Mais Ariel, prenez 10 secondes, répondez-lui maintenant.
Comment ça s'appelait le nouveau, La Rivière?
La Rivière Atlantique.
La Rivière Atlantique.
Oui, c'est un. C'est du romantisme noir.
Ah, hein.
Ah, c'est ouais. Un oxymore.
Je veux dire, à 30 cm, quoi.
Ah oui, d'accord.
Au Marcy.
Oh là là. Oh là là. Oh là là. Dis donc.
C'est de la pornographie,
alors,
rose.
Sous l'océan. Sous l'océan. Ouais.
Elle va devoir changer de titre, la pauvre.
Oui, là, vraiment.
Tika tika tom, tika tika tom.
Va sortir son
oh et oh et. Tika tika tom, tika tika tom. Oh et oh et. Trou de balle masqué. Oh et oh et.
Bon, je il tape sur son bambou et ses numéros.
Dans son nylon et vous comme on est musicien.
C'est bon pour la dombale. C'est bon pour la dombale.
RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Claudine Maublanc est au téléphone. Bonjour Claudine.
Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Ah ben les grosses têtes sont très
Claudine.
En forme, il n'y a même pas pu
Claudine.
Poser une question là.
C'est quel parfum,
ça sert à rien les questions.
C'est quel parfum la crème Montblanc là?
Ah oui, ben ça on me l'a fait souvent.
Oh j'imagine. Tu as quel âge?
57 ans.
Tu es formé?
Ah oh bah là on espère quand même.
Elle habite Saint-Médard en Jarre. Ah, Claudine.
Vous dites pas ça pour nous faire rêver, Laurent. Elle habite vraiment là-bas.
C'est près où Saint- Bordeaux.
Ah, c'est tout près de Bordeaux. Bordeaux. Oui, en Gironde, ah, oui. Tout est près de Bordeaux, à Saint-Médard en Jarre. Claudine, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Eh bien, je suis secrétaire.
Vous allez peut-être partir grâce à RTL et aux grosses têtes au château de Cheverny. Cheverny, un château 4 étoiles, une suite 5 étoiles, enfin plein d'étoiles.
Plein mais d'étoiles. Alors... Vous allez être ravie au château de Cheverny, ma petite Claudine. À la bonne heure. J'en frétille d'avance, Claudine.
Le château de Cheverny, c'est le château, vous le savez, je le répète depuis plusieurs jours maintenant, qui a servi à Hergé de modèle pour son château de Moulinsart. Vous croiserez Tintin, le capitaine Haddock et Tournesol dans une exposition justement consacrée aux aventures du célèbre héros belge. Donc, un séjour au château de Cheverny, Claudine, si vous me dites...
Laurent, je peux juste, avant que vous me posiez la question...
Mais bien sûr, Claudine.
Je voulais juste préciser que j'ai longtemps pensé que lorsque Monsieur Bouvard arrêterait les grosses têtes, il faudrait que l'émission s'arrête avec son départ. Ah. Eh bien, j'avais tout faux.
Oh.
Parce que sincèrement, vous avez pris la relève, je dois dire, avec brio et pour notre plus grand plaisir.
Ben, vous avez gagné, Claudine. Non,
non, non. Vraiment, je voulais... Non, c'est pas pour ça.
Et vous savez, Claudine, que c'est le prénom préféré de Laurent quand il écrit des pièces.
En plus, c'est vrai.
Moi, je me suis appelée Claudine pendant 2 ans.
Exactement. Voilà. Et Isabelle Mergaux aussi.
Voilà.
Claudine,
voilà.
Vous avez raison. Même ici, personne n'y croyait. Hein.
Non, mais c'est vrai que vraiment... Oui.
Bah, c'est gentil, Claudine. Voici la question.
Allons.
Et elle concerne quelqu'un qui n'a pas payé 1048,82 euros, si on en croit le Canard enchaîné qui est sorti hier, 1048,82 euros à la caisse des écoles du 5e arrondissement de Paris.
La cantine.
Et c'est la cantine. Qui n'a pas payé la cantine de ses enfants ?
Ouh là 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 là.
Ah là là, bah c'est facile. Oh si, vous l'avez forcément.
Allez chercher Claudine. C'est, allez.
C'est...
Allez ma Clo-Clo.
Alors, ça fait combien derrière
c'est,
les cantines
c'est dans la suite logique ça, vous voyez, c'est un peu comme Balkany
au pouvoir.
Thomas Thévenoud,
voilà. C'est gagné.
Oui, merci.
Le mec, il est magique. Il est génial.
Il est quand même génial parce qu'on le reçoit à la télé. Alors, dans le supplément, dimanche, moi, samedi soir, non, on n'est pas couché puisqu'il sort un bouquin. On essaie quand même de lui dire que c'est pas pardonnable et tout. Il dit non, mais j'ai changé.
J'ai
et
compris,
trois jours
c'est
après.
Ce mec, il est impayable.
Trois jours après, il n'a pas payé la cantine de ses gosses, dis donc.
Oui, mais il dit ça pour tout. Il dit aussi que les impôts et tout ça, il allait payer, mais qu'il était en retard.
Oui, c'est une phobie administrative.
Oui, oui, il a peur d'ouvrir les lettres. Alors, il les ouvre pas. Donc. Bah,
ça vous arrive de pas payer la cantine des gosses, Bafi C'est Moon.
Ah non, moi je paye tout, moi.
De toute façon, je lui donne pas à manger à mon fils.
Moi, non, je leur donne des granulés et ils se débrouillent très
voilà,
bien.
Non, mais il y a le système Lunchbox qui est pas mal.
Vous connaissiez Thomas Thévenoud, Claudine ?
Oui, ah ben oui, tout à fait.
Ah,
alors
oui.
Là, oui, on en a entendu parler.
Oh, bah, tiens.
C'est vrai que c'est incroyable.
On l'adore.
PV, kiné, loyer, factures diverses, eau et électricité. Voilà la liste des phobies administratives de Thomas Thévenoud. Ça fait peut-être un peu beaucoup, là, maintenant, quand même. On veut pas tirer sur une ambulance, mais enfin, quand même, quand elle continue à faire pimpon...
Surtout qu'il est en promo pour son bouquin où il dit « j'ai changé ».
Non, et puis alors moi, je ne pourrais pas lui pardonner d'avoir massacré Jennifer.
Comment ça ?
Il a chanté dans sa voiture, dans le reportage du supplément. Il explique que quand il part en voyage électoral, il écoute Jennifer dans la voiture et il dit « oui, il faut bien écouter de la soupe de temps en temps ». Et il chantait du Jennifer. C'est scandaleux.
Et en plus, la soupe, il la paye même pas.
Ouais. C'est scandaleux. Un peu de respect pour Jennifer.
Qu'est-ce qu'il chantait de Jennifer?
De la soupe populaire.
Sur le fil de ma vie, je me perds parfois à chercher l'équilibre.
Mais non, mais tais-toi. C'est...
Là, vous êtes en train de lui donner raison.
T'es en train de la massacrer, toi aussi.
C'est vrai, mais avec
Et il chante ça, vraiment.
Ben voilà, Claudine.
Oui. Puisque Monsieur Baffi est parmi vous, je peux lui demander s'il passe à Bordeaux prochainement?
Écoutez, vous m'avez loupé à Bordeaux, Claudine. Ah, mais si je vous avais vu, j'aurais fait pareil, je vous aurais loupé. Hein.
Ah, c'est raté, vous vouliez aller le voir dans une pièce, évidemment.
Tout à fait.
Mais je peux vous inviter à Paris si vous venez à Paris.
Ah oui, je viens voir mon fils de temps à autre.
Eh bien, vous verrez le mien dans la pièce, il joue dans la pièce, je vous invite.
C'est vrai.
Ben voilà, d'une pierre deux coups, on vous applaudit, Claudine.
C'est formidable, c'est gentil à vous.
Question culturelle maintenant pour Sophie Duponchel, puisque j'ai pas eu le temps de la poser ma question culturelle tout à l'heure.
On est impatients.
Voilà. C'était plus drôle quand on répondait pas aux questions, quand on parlait.
Ah bah vous voulez parler vous alors.
Oui. C'est marrant quand on se raconte nos vies là.
C'est vrai. C'est moins.
On ça sera pas toujours marrant. Hein.
Ah ouais. C'est vrai.
Non mais de temps en temps une petite question quand
oui,
même.
Temps en
oui,
temps
une par heure quoi.
Voilà. Et puis il faut quand même qu'on profite et qu'on bénéficie de la présence de Florian Gazan et d'Ariel.
Ah, c'est vrai que c'est l'homme qui répond à toutes les questions.
Et d'Ariel Dombal, qui sont peut-être, on peut le dire, les plus cultivés de vous.
Ah, ça c'est sûr.
De vous six.
Ouais, oui, c'est pas très gentil pour nous, mais
ça vous emmerde.
C'est pas grave, on prend.
On assume.
Et la question concerne cette fois Victor Hugo. Vous.
C'est qui?
C'est qui? On l'a dit ensemble.
Ah, c'est une avenue, non?
C'est un collège.
C'est une avenue.
C'est un collège.
C'est une avenue. C'est une avenue.
Bon, bah alors je vais y aller doucement.
Ah oui, vas-y.
Vous
prenez
savez,
votre temps.
Vous savez que le plus long exil de Victor Hugo,
ce
fut voilà, sur l'île de Guernesey. Il avait d'abord essayé Jersey. Hein,
ouais. puis il n'aimait pas
c'était
le tissu.
Pas sa taille.
Et puis il a été expulsé de Jersey avec d'autres écrivains hein, d'ailleurs. Et puis il est arrivé à Guernesey. Il est resté quand même.
4 ans.
Non, plus que ça, 15 ans à Guernesey. De 1855 à 1870. Vous voyez, 15 ans sur l'île de Guernesey. Ouais. Et ma question culturelle, évidemment, c'est justement...
Qu'a-t-il écrit?
Quel est le titre du roman qu'il a écrit sur l'île de Guernesey? Roman publié en 1866.
Je me fais chier?
Non.
Est-ce que c'est un très...
Koh-Lanta.
Est-ce que c'est un très long roman?
Alors, si je vous en parle, c'est évidemment parce qu'actuellement, sur l'île de Guernesey, un festival Victor Hugo du 2 au 10 avril... Festival Victor Hugo, un hommage évidemment au grand romancier, peut-être le plus grand d'ailleurs.
Alors il se passe quoi?
Il y a des gens qui chantent du Victor Hugo?
Ce n'est pas la légende des siècles.
Est-ce que c'est un roman très connu?
C'est alors très connu.
Ils sont tous plus ou moins connus.
Ils sont... C'est du Hugo alors.
Non, alors est-ce que c'est pas chose vue?
Non, du tout.
C'est pas Boss?
Non plus.
Parce que Hugo Boss, ça a bien marché.
Bon, je ne vais pas mentir, hein, moi je ne l'ai pas lu, hein, ce roman de Victor Hugo. Bon, mais le titre me disait quand même quelque chose.
Ah oui, non mais c'est oui, donc il n'est pas là. Ouais.
Est-ce que ça a été utilisé pour faire un spectacle, par exemple, une pièce
un film, un film peut-être.
Je peux vous
un
raconter film. L'histoire si
ah
vous
voulez. Ah ben
voilà, ce n'est pas Ruy Blas. C'est pas le Rouge et le Noir,
pardon.
Quoi. Donc.
Ruy Blas.
Ruy Blas, non. Le Rouge et le Noir.
Non, non, c'est pas le Rouge et le Noir, forcément. Parce que c'est quand même le plus connu de Victor Hugo.
Avec Don Quichotte.
Avec Don Quichotte.
C'est pas Il est venu le temps des cathédrales.
Non, là vous avez le propriétaire d'un bateau qui s'appelle la Durande, qui promet de donner la main de sa nièce, Déruchette, elle s'appelle la nièce.
Ouais, c'est dur à porter.
Joli, hein.
Il promet de donner la main de sa nièce à celui qui récupérera l'épave coincée entre deux rochers de l'écueil d'Ouvre au large de Guernesey. Et effectivement, il y a un marin, qui est un pêcheur, qui va le faire, qui s'appelle Gilliatt, qui réussit à récupérer ce morceau d'épave après maintes péripéties, notamment en luttant contre une pieuvre. Gilliatt réussit sa mission, mais il s'aperçoit, alors qu'on lui a promis la main de Déruchette, il s'aperçoit à son retour que Déruchette... C'était prise du jeune pasteur.
Non, mais attends,
on va laisser aux deux personnes cultivées le soin de répondre.
Je l'ai lu, celui-là, c'est la pute.
et là, le roman s'appelle... il va renoncer au mariage. Hein. Il va même aider les jeunes gens à se marier en cachette et à embarquer à bord d'un bateau.
Il est cool, Gilliatt.
Il y a un mot d'amour dans le titre?
Pas du tout.
Est-ce qu'il y a plusieurs mots dans ce titre?
Et puis, il se laisse mourir, submergé par la mer, tout en regardant s'éloigner le navire qui emporte les nouveaux mariés.
Ah là là.
Ah bah c'est gay.
Alors il y a le cocu sifflera trois fois.
Voyage de noces.
Non.
Est-ce qu'il y a un verbe dans le titre?
Du tout.
Il y a des références à la mer.
Oui.
Ah.
Pêcheur de quelque chose ?
Non, mais on se rapproche. Bravo, Florian Gazan.
Sur la plage abandonnée.
Il y a bateau dans le titre ?
Ah, bateau, non.
Oh, mon bateau !
Non, mais ça, on le sait ou on ne le sait pas. Hein. On connaît son Totor ou on ne connaît pas son Totor.
Ah, mais bon, Totor.
Et ça fera 300 euros pour Sophie Duponchel. Très bien, tant mieux pour elle. C'était la question culturelle.
C'est pas pêcheur d'Islande, c'est pas lui.
Pêcheur d'Islande, non.
En tout cas, écoutez. Puisque c'est question culturelle,
pas,
pour ceux qui aiment
quand
beaucoup...
Quand elle commence comme ça, c'est qu'elle sait pas.
Non, 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 attendez. Ceux qui aiment beaucoup jouer Victor Hugo...
Elle en galère, la boulimique.
Ceux qui aiment beaucoup Victor Hugo et qui veulent apprendre des choses doivent aller au musée Victor Hugo qui est Place des Vosges.
C'est bien.
Et oui, c'est là où vous voyez toutes les encres parce que c'était aussi ce merveilleux dessinateur.
Donc vous faites aussi office de tourisme dans l'émission.
Et est-ce qu'il y a le mot Guernesey dans le titre ?
Pas du tout.
Est-ce qu'il y a le mot navire ?
Est-ce qu'il y a reste 30 secondes
Est-ce qu'il y a le mot navire
océan.
Océan.
Est-ce qu'il y a
le
mot de là
on trouvera
bateau.
Mer, vous l'avez dit, il y a le mot mer, c'est
mer.
Vrai. C'est même le dernier mot
mer
du titre.
Mer à mer.
Non, non.
Est-ce qu'il y a vague?
Non, il n'y a pas vague.
L'amour dans la mer.
J'ai fait l'amour avec ta mère.
Elle préfère l'amour en mer.
C'était
Véronique Janot. Comment c'était ça?
J'ai fait l'amour avec la mer. J'ai fait l'amour avec la mer.
Et ben voilà, 300 euros pour Sophie Duponchel et le titre c'était Les Travailleurs,
oh, les travailleurs de la mer.
Ah, les Travailleurs de la mer. Une question musicale, puisque la littérature, manifestement, ça ne marche pas. Une question pour Jocelyne Druyère, qui habite Ney, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le Figaro, aujourd'hui, on nous parle des Nuits de Fourvière, un festival que vous connaissez peut-être, que propose la ville de Lyon du 1er juin au 30 juillet prochain, avec une programmation très soignée, nous dit Olivier Nuc dans le Figaro, puisqu'on verra là-bas un groupe britannique qui ne s'était pas produit à Lyon depuis 1996, un groupe britannique qui fête déjà ses 25 ans de carrière, 25 ans de formation. Je peux vous donner quelques noms des membres du groupe, puisque c'est le groupe qu'il faut retrouver. Tom York, Johnny Greenwood.
Radiohead.
Radiohead, bonne réponse.
Ça, c'était pour Florian, hein.
Ouais, merci. Merci. On aurait trouvé Radiohead.
Vous auriez trouvé Radiohead, ouais. Florian Gazan.
Ah, non, moi j'aurais pas trouvé Radiohead.
Reposez la question.
Florian, quel est le grand.
Vous connaissez Radiohead ou pas, Elie Semoun?
Quel est leur grand titre? Alors chantez-le
c'est
un
creep.
Petit peu.
C'est Creep.
I'm a creep, I'm a weirdo.
Ah bon. On le reconnaît bien. Ouais.
C'est la version Thomas Thévenot.
Hein. Et c'est pas eux qui ont fait Radio Kills.
Non, non,
c'est les Buggles.
Non, ça c'est Ringo.
Il y a radio dans le.
C'est les Buggles.
Oui, c'est vrai que Ringo avait fait la version française. Oui. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir.
Rien à voir avec Radiohead. C'est ça, écoutez Ariel Dombal. Radiohead.
Bah, c'est ce que chantait Florian. C'est ça.
C'est vrai que c'est pas un truc que tout le monde connaît quand même, Gazan.
Oh, il est connu ce morceau. Quand
ah
même.
Oui.
Ah oui, c'est un gros tube.
Le groupe est connu. En
bon, cas. Puisque c'est trop facile la musique pour vous, je repars vers la littérature et un livre publié par François Olivier Rousseau aux éditions Pierre Guillaume de Roux. 300 pages d'une biographie, consacrée à Mathilde de Morny. Mathilde de Morny était la dernière fille du duc de Morny, frère utérin de Napoléon III. Et de son épouse, donc la maman de Mathilde Morny était la princesse Sophie Troubetskoy. Je ne sais pas si ça vous aide. Hein,
Troubetskoy, des Russes.
Et donc, peut-être, on n'en est pas sûr, mais peut-être la petite fille naturelle du tsar Nicolas Ier, l'arrière petite fille de Talleyrand, mais aussi de l'impératrice Joséphine. Voilà pour le CV, la bio de Mathilde de Morny, à qui donc on consacre un livre entier de 300 pages, publié aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Mais cette Mathilde de Morny, on la connaît non seulement pour sa fin tragique, et je vais vous la raconter dans un instant, mais aussi parce qu'elle était, l'amie de qui ?
La Mairie Corée ?
La question était longue, là.
Ah ben oui, oui.
C'est long, et puis...
L'ami de Laurie ?
Surtout,
l'ami de Laurie, non.
C'était l'ami d'un peintre, d'un écrivain ?
C'est très culturel. Hein.
L'ami de Proust ?
Ah, de Proust, non.
Ah, quand on dit l'ami, c'est-à-dire l'ami sexuel ou l'ami...
L'ami sexuel.
La muse.
D'une femme.
D'ailleurs, on la surnommait... Effectivement, d'une femme.
D'une femme.
On la surnommait Monsieur...
Monsieur Sand,
Monsieur Sand, non.
Monsieur Chopin,
non.
Monsieur de Fursac.
Non. Cette Mathilde de Morny, dite Missy, c'est ainsi qu'on la surnommait.
Ah, oui.
Missy.
Colette.
Et c'était l'amie de Colette. Bonne réponse de Michel Bernier. Mathilde de Morny se faisait appeler Max, oncle Max.
Ah ouais, c'est sexy, oncle Max.
Ça
va, tonton.
Elle portait un complet veston.
Oui, oui, elle était très masculine.
Interdite aux femmes, caleçon d'homme, cheveux courts, elle fumait le cigare. Et elle a subi une ablation des seins ainsi qu'une hystérectomie.
Ah oui, bah donc oui, c'est une transsexuelle. Donc.
Et elle a mal fini.
Surtout
parce que
à cette époque-là, dis donc.
Ah bah oui, quand même, faut...
C'est en quelle année?
Ah bah vous imaginez.
Et Ellie me disait qu'elle tournait encore des films, non?
Non, elle réalise.
Mais non, c'est pas José Dayan.
C'est pas José Dayan. Mais oncle Max, ça lui va bien. Mais
effectivement, je comprends que Colette aimait les chattes. Hein, donc, hein.
Non, mais voilà, c'est quand même Mathilde de Morny. Oui, dites Missy, c'est quand même culturel. Ça,
oui,
c'est
oui, absolument.
Ce que je vous raconte là. Et on l'a surnommé évidemment aussi Monsieur Colette. Le livre s'appelle Missy. 300 pages qui lui sont consacrées à cette marquise déclassée qui, évidemment, fut très heureuse aux côtés de Colette. Mais après cette liaison, ça s'est un peu moins bien passé. Elle se faisait appeler Max ou Monsieur Max. Elle avait adoré l'époque où elle avait appris à pratiquer la serrurerie dans l'atelier.
Tu m'étonnes.
Oui. C'est un code.
Ça peut servir. Hein.
Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé.
De la grande école
non,
du
écoutez,
monde.
Écoutez, franchement... C'est...
Alors,
elle est partagée, attention. Hein.
Mais elle est morte de quoi?
Elle s'est suicidée à 81 ans.
Ah oui.
Il était temps.
Non, écoutez, franchement...
Elle trouvait qu'elle avait pris un petit coup de vieux.
Non, en juin 44, hein, elle s'est suicidée. Et elle a été sculpteur, elle a été peintre aussi, hein, quand même. Cette Missy, Monsieur Max, si
il
vous
a
préférez,
été peintre.
Ou Monsieur Colette. Fin mai 44, elle a tenté de se faire harakiri, mais bon, elle a été...
Elle s'est ouvert le clito en deux.
Non, écoutez, mais elle a été sauvée, finalement. Et puis, complètement ruinée, elle s'est suicidée un mois plus tard, après son harakiri, le 29 juin 44, en mettant la tête dans le four de sa cuisinière à gaz.
Oh. Quel thermostat ?
Non, mais ça, c'est radical. Hein. Elle avait vraiment envie, quand même.
Non, mais c'est un beau personnage.
Et là, elle est morte 3 heures plus tard.
Mais qui pourrait jouer dans le biopic ?
Ah, c'est quand même génial comme histoire.
C'est merveilleux. Je crois qu'on me l'avait proposé,
elle a mis 3
ce rôle.
C'est pas vrai.
Mais je vous assure, c'est pour ça que ça m'est revenu. Ah
bah, Harakiri, c'est normal.
Harakiri, mais le problème, c'est l'ablation des seins. Non.
Là, il y avait du boulot, là.
Non, j'aime mon métier, mais quand même.
Vous en saurez plus sur cette Missy, ou si vous préférez, Monsieur Colette, ainsi que la surnomme Le Nouvel Observateur cette semaine sous la plume de Jacques Nerson. Mais Mathilde de Morny, c'était son vrai nom, dite Missy, effectivement s'est suicidée à 81 ans après avoir été la fiancée de Colette. Voilà, on apprend quelques trucs quand même dans les grosses têtes. Une question pour Monsieur Mouton, qui habite Boulogne-sur-Mer. Ah bah ça tombe bien parce que la question va porter sur le film Le Jour le plus long, un film qui va être rediffusé là, dans les jours qui viennent. Le
Encore
jour le plus... Ah bah oui, bah c'est souvent diffusé, Le Jour le plus long. Bah,
sur, c'est un super film.
Sur France 3, d'ailleurs lundi prochain, à 20h55, vous pourrez revoir Le Jour le plus long avec un casting évidemment...
De rêve.
Incroyable.
Incroyable, casting international, aussi bien côté français que côté allemand, côté américain. On va dire le Gotha
des stars de l'époque.
Des stars de l'époque, ouais. Il y a de Bourville.
Alain Belmondo aussi.
Alain Delmondo, un tout petit rôle aussi, ouais. Mais dans les principaux rôles, il y a Arletty, il y a Bourville, il y a Pauline Carton.
Il y a Dora Dole.
Ouais. Voilà, George Wilson.
Kev Adams.
Madeleine Renaud.
Jordi.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que la première fois où ce film, Le Jour le plus long, fut diffusé à la télévision, c'était en 1976, un soir de novembre 1976. France 3, FR3 à l'époque, diffuse Le Jour le plus long pour la première fois. Et FR3 décide de rediffuser le film 3 semaines plus tard. Pour quelle raison ?
Est-ce que c'est parce que ça dépassait minuit et en principe, il n'y avait plus de programme après minuit et il y avait la mire ?
Non plus.
Il y a eu un incident ?
Ils avaient oublié un passage ?
Non.
Ils avaient une mauvaise version ?
Non.
Il y a eu un incident.
C'était en noir et blanc. Ah non, au début, c'était en noir et blanc. Après, ça a été en couleur.
Non.
N'importe quoi.
Là, on est en 76.
Il y avait une panne.
Alors, expliquez. Il y a eu une panne pour quelle raison ?
Une tempête ?
Non.
Est-ce qu'il y avait trop de gens qui regardaient la télé en même temps ?
C'était la première diffusion de ce film.
Oui, et donc
la
c'était
donc
la première fois
regardé.
Que ça passait à la télévision à 20h50 ou à 20h30, donc il y a eu trop de gens qui ont regardé parce que tout le monde voulait voir
le jour le plus long. Bonne réponse
c'était ça.
De Christophe Beaugrand. Non, non, je vous jure vraiment, c'est ça la raison, c'est incroyable.
Mais comment ça, il y avait trop de monde, alors ça a fait sauter les
trucs. C'était la première fois qu'on diffusait Le Jour le plus long, donc tous les Français voulaient voir le film, ceux qui l'avaient vu déjà au cinéma, mais ceux surtout qui ne l'avaient encore jamais vu. Et ce soir de novembre 76, FR3 diffuse le film. Les Français sont si nombreux devant leur téléviseur que le réseau électrique national ne résiste pas, paraît-il. J'ai du mal à le croire.
Incroyable.
Beaugrand, t'as jamais eu de panne avec tes merdes, toi.
Surtout en 76, quand même.
Et donc ça lâche sur une partie du territoire, plongeant dans le noir des millions de foyers.
Carrément panne d'électricité générale.
Ah oui, et trois semaines plus tard, le film est donc rediffusé à partir de l'attaque du casino de Ouistreham, puisque c'est le moment où la coupure est intervenue.
Bon, ils n'ont pas rediffusé tout le film, ils l'ont diffusé juste au moment où ça s'était arrêté.
Et oui, exactement.
C'était un gros entracte.
C'est pas très agréable.
Alors, le jour le plus long donne la nuit la plus longue, puisqu'on est privé d'électricité.
Ah. Et à quelques mois près, Claude François sera encore en vie, surtout.
généralement,
faut espérer dans ces cas-là que ton épouse te dise pas non, pas aujourd'hui, c'est le débarquement.
Non, mais vous savez que c'est généralement quand il y a des pannes d'électricité que 9 mois après, il y a beaucoup d'enfants. Il y a des baby-boom dans la foulée, des pannes d'électricité parce que les gens n'ont plus la télé, ils ne savent pas quoi faire, donc ils baisent.
Ça fait disjoncter, ça s'appelle.
Oui.
Merci, merci. On apprend des choses, hein.
Non, mais dans... Ariel est électricien.
On apprend des choses. Hein.
Et dans le rôle de Jeannine Cascouille, Ariel Dombal.
Non, ce qui est génial, c'est que je voudrais comprendre votre raisonnement, cher
Ariel.
Elle
est disjonctée aussi. Il n'y en a pas.
C'est-à-dire que pour vous, en fait, c'est
non, mais écoutez,
tellement éloigné des plombs
non,
que...
Non, mais justement, tout à coup, on est dans le noir. On va, ça a disjoncté, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as branché ceci ou cela? On va voir dans le petit tableau.
Ah, mais si tu sais où il est.
Oh là là, incroyable.
Oui, non, mais chez moi, c'est un Van Gogh.
on va voir sur le petit tableau s'il y a un petit truc qui est... tombé,
oui.
Enfin voilà, et puis on réappuie sur tous les trucs. Parfois, on réappuie.
Je les imagine bien tous les deux avec devant le tableau d'électricité avec Bernard-Henri et Ariel. Ouais. Je vous vois, ah ouais, je sais t'imagine. Pas, il y a quelque chose de philosophique là-dedans.
J'imagine.
Non, je sais pas, j'ai cette impression d'un couple unique.
Mais elle a raison, parce que je suis pas plus doué qu'elle. C'est vrai qu'on est là à regarder le tableau.
Voilà,
et il y a tous les bitonios qui sont en l'air, sauf un. Voilà. Et on se dit, tiens, c'est celui-là qu'il faut relever.
Ça fait ça dans les partouges, des fois.
On le remet, et justement, tout ressaute.
Alors, mais sauf que généralement, avec Bernard-Henri, vous faites ça avec une jolie petite bougie en vous voyant. À votre avis, c'est celui-ci. C'est quand même beaucoup plus chic.
Bernard, arrêtez avec le grippe.
Bernard, allez-y, j'ai peur de me prendre du jus.
Une question pour Marion Ricard qui habite Marseille.
Alors, faut citer Pernod, faut trois marques.
Héloïse est quatrième, Dylan est onzième. Mais de quoi ?
La liste des prénoms les plus donnés en France ?
Non. Héloïse est en quatrième position, Dylan en onzième position.
On cherche les noms de famille qui correspondent ou c'est uniquement les prénoms, le classement là ?
On connaît que les prénoms.
C'est des enfants ?
Ce sont des enfants, oui et non.
Est-ce que ce sont des prénoms qu'on donne à des enfants quand
même ? Ça n'a rien à voir avec ça.
Est-ce que c'est des gens qui espèrent être canonisés ?
Du tout.
C'est une lignée ?
Une lignée, non.
Est-ce que ce ne sont pas des vrais gens ?
Ce ne sont pas des vrais gens, je suis obligé de vous répondre oui un peu quand même.
Mais alors, attends, ce ne sont pas des gens...
Ah, il y a une astuce, hein, évidemment, dans la question.
Ceux qui ne sont pas des gens, ce sont quoi ? Des objets ?
Non.
Ce sont des
personnages de romans ?
De toute façon, j'en compte 14 et sur les 14, il s'agit tous de la même chose, sauf qu'en quatrième position, on trouve Héloïse et en onzième, on trouve Dylan.
Sur des objets ?
Non.
C'est les deux seuls êtres humains dans ce classement ?
On peut considérer ça comme ça, oui.
Ce sont des titres de chansons ?
Oui, bravo.
Bon, c'est l'ordre des chansons sur un album.
Oui, Héloïse est en quatrième position et Dylan en onzième.
C'est un album qui fait l'actualité en ce moment.
Et oui.
Ah, c'est Renaud !
Et c'est évidemment deux titres du nouvel album de Renaud. Bonne réponse de Florian Gazan.
C'est pour ça que c'était Madame Ricard qui posait la question.
Ah oui, c'est Madame Ricard.
Le quatrième titre de l'album s'appelle Héloïse. Le onzième s'appelle Dylan. Évidemment, on n'a pas forcément encore beaucoup parlé de ces chansons-là. On a plus entendu, pour l'instant, J'ai embrassé un flic, par exemple, ou même La vie est moche et c'est trop court.
Le message qui m'a laissé sur
moi. Oui, il y a aussi ce connard d'Eli qui me casse les couilles aussi.
Allons, son bon connard.
Ah, vous êtes peut-être dans la chanson Hyper Cachère.
Moi, je suis toujours vivant.
C'est une belle chanson.
Toujours vivant, au cœur de vous.
J'ai la banane.
Voilà, il y a Tabatterie aussi, magnifique chanson de Renaud. Mais effectivement, Héloïse et Dylan sont deux nouveaux titres de Renaud sur ce dernier album qu'on a découvert aujourd'hui sur RTL.
RTL, la valise.
Une toute nouvelle valise, puisqu'elle a été gagnée hier par Régine, une auditrice qui nous écoute peut-être
encore aujourd'hui.
Elle a raccroché au nez d'Élie Semoun quand il lui a fait ça.
Mais décidément, tous ces chanteurs t'adorent.
Elle t'a laissé un message. Allô, le connard.
Allô, sombre connard.
Il fallait lui faire patchouli chinchilla.
Ah, c'est quoi patchouli chinchilla? Vous devriez prendre le reprendre le répertoire de
ah oui,
Renaud
serait...
non, de Régine.
Non, de Régine.
Ah, Régine, ouais. Oui.
Régine sans sel.
D'ailleurs, ils sont associés.
Non, mais on adore non, Régine.
Essaye de faire quand
les deux, ça ferait la Régine Renaud.
Quand vient le mardi, la grande Zoa.
Mais ses bijoux, ses chinchillas.
Mais il faudrait que tu fasses.
Ah, mais Ariel, vous seriez formidable dans le répertoire
génial.
De Régine.
Génial.
Je vous jure.
Sors de ma vie, ne reviens plus, car désormais tu le sais, tu n'es plus le bienvenu. Je survivrai sans toi. Ouais.
Mais alors, oui. Il faut cette espèce de gouaille.
Non,
justement.
Regardez ça. Azzurro, le ciel.
Vous pouvez peut-être, vous, Christophe, nous faire effectivement une chanson de Régine interprétée par Ariel Dombal.
Je ne sais pas si j'y parviendrai. Hein.
Essayez.
Laquelle vous voulez.
Ou peut-être Florian qui fait ça très bien aussi.
Je survivrai, ne reviens pas. Si tu reviens, tu seras, je ne serai pas vraiment pour toi.
Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux.
Voilà.
Magnifique.
Alors, dans la valise RTL, 1 111 € dans cette nouvelle valise. Plus, écoutez bien, l'édition limitée de luxe du CD de Thomas Dutronc, Éternel jusqu'à demain. Ça, c'est moi qui ai ajouté ce disque hier dans la valise RTL. Mais en plus, a été ajouté, en plus du disque et des 1 111 €, un vélo électrique Toro, T-O-2-R-O-T, un modèle City Surfer, c'est Ludovic van de Kerkhove. À la mi-temps du match hier soir.
Ouais, ah oui.
À la mi-temps.
Qui a rajouté ça?
Ludovic van de Kerkhove. C'est évidemment notre spécialiste foot sur RTL.
Complètement.
Évidemment. Ah oui. Ça faisait quoi le score à la mi-temps PSG Manchester?
À la mi-temps, il y avait.
2-1
Non, il y avait un partout à la mi-temps.
Un partout à la mi-temps.
Ça, c'est une information intéressante.
Bon, ben, en tout cas, à la mi-temps, sur RTL, Ludovic van de... Ludo, on l'appelle
oui,
Ludo.
Lulu.
LVDK.
LVDK, il a rajouté un vélo dans la valise, un vélo pliant à assistance.
Tous les trucs dont ils veulent se débarrasser.
Ah non, mais un vélo, c'est vachement bien, un vélo pliant. Non, mais un vélo pliant, j'aimerais bien,
électrique, moi. Électrique, en plus.
Pour mettre dans une valise, c'est mieux.
Un vélo pliant à assistance électrique, attention.
Ah, on en veut,
mais
ça.
Mais alors, attention aux tricheries au Tour de France.
Oui, mais là...
Oui. Ah bah oui.
Oui, mais là, c'est...
Janine connaisse le retour.
Je ne sais pas. Je... sur place.
On fait rarement le Tour de France avec un vélo pliant.
Bah, oui.
Je ne sais pas si... Je sais pas si notre...
Et un vélo électrique non plus.
Et puis, il faudrait vraiment un énorme hasard pour que j'appelle quelqu'un qui fasse le Tour de France.
C'est ça. Ouais.
Et on appelle Janine Zoutemelk.
On appelle Janine.
Bah, puisque vous me semblez en verve, Ariel, je vais vous demander un numéro entre 1 et 20. Allons-y.
Alors, le numéro 9.
Le numéro 9. Il s'agit de Yves Boutavant.
Très bien.
Maillot jaune pour l'instant.
Ça tombe très bien.
Ça tombe très bien.
Il a un nom de cycliste.
Monsieur Boutavant.
Et Yves Boutavant est en tête.
Et Boutavant.
Et sur le finish, sur la ligne d'arrivée.
Boutavant qui fait son effort, il fait son effort. Boutavant, il est à 10 mètres, 20 mètres. Il se rapproche, il est à 1000 mètres de l'arrivée. La flamme rouge. Boutavant. Le peloton est derrière, c'est le sprint.
Il arrive.
Boutavant, est-ce que ça va tenir? Oui, Boutavant premier.
Boutavant, bravo.
Boutavant, replie son vélo. Boutavant est le moment tout, je pense qu'il y a un truc qui marche bien.
Il habite Mâcon, monsieur Boutavant, et ça va sonner chez lui. J'espère qu'il n'a pas déjà décroché parce qu'il a raccroché. Hein.
Il a eu peur.
Ça sonne chez monsieur Boutavant.
Yves.
C'est pas
Boutavant. Ariel, c'est vous qui lui parlez, il s'appelle Yves. D'accord. Boutavant, et il habite Mâcon. Vous savez tout.
Allô, monsieur Mâcon.
J'ai rien compris.
Emmanuel Mâcon, bonjour.
Oui.
Bonne chance pour le
vous
Tour de France.
Boutavant.
Il fait beau à bout avant.
Ça sonne, ça décroche.
Bout avant.
Ah, bah voyez.
Il n'est pas disponible pour le moment.
Vous lui laissez un message,
Ariel. Message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
C'est bon, Ariel. Hein.
C'est bon. Monsieur.
Elle était bloquée là.
Qu'est-ce que vous attendiez,
Monsieur Yves Boutavant? J'attendais un bip. Monsieur Yves Boutavant, hélas pour vous, vous n'avez pas répondu à cet appel, car c'était RTL et toutes les grosses têtes ici présentes, et vous alliez recevoir 1000 cadeaux et aussi une possibilité de vous inscrire au Tour de France.
C'est dommage.
Hein. C'est génial.
C'est collector comme message.
Et génial. Oui, ça, il pourra le garder comme vous, celui de Renault.
Exactement.
Je le ferai écouter en famille.
1111 euros, l'album de Thomas Dutronc, le vélo électrique Toro modèle City Surfer. Et j'ajoute pour la valise de demain, j'ajoute, écoutez bien, 2 places pour le Paris e-prix. Sachez que le 23 avril prochain à Paris, autour de l'Hôtel des Invalides, aura lieu la première édition du Paris e-prix en partenariat avec notre station. Qu'est-ce que c'est que le Paris e-prix ? C'est un championnat révolutionnaire. Ce n'est pas évidemment un grand prix de Formule 1, mais tout de même, les voitures y ressemblent, sauf que, évidemment, les voitures seront électriques,
et oui,
écologiques, sans pollution. Ce sera évidemment une grande première dans le monde des sports mécaniques, sous la Tour Eiffel, enfin aux Invalides, le Grand Prix e-prix le 23 avril. 2 places pour le Paris e-prix, donc dans la valise RTL.
Avec notamment le fils d'Alain Prost qui court.
Exactement, Prost Junior.
Prost
on peut
Junior,
dire.
Nicolas Prost, ouais.
Prost, Nicolas Prost, il s'appelle Nicolas.
Nicolas.
Laurent, si vous avez une question de zoologie, c'est maintenant.
Ah non, 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 parce que là, ça va être l'heure du flash de les informations. Et... regardez la pendule. Quelle heure il est,
oui,
là, Laurent Baffi?
Ah,
bah, putain, c'est pile l'heure du flash, là, vache.
Ah, oui, hein, il va bientôt.
C'est à 11h25 maintenant.
Mais non, mais non.
Je comprends,
il faut pas le dire.
Voilà.
Mais il est,
t'es
il
vraiment un sombre connard. Il avait raison, Renaud.
Sombre connard.
Mais parce que ils n'ont pas réglé là, l'horloge.
Non, il est 17h là.
Et il est 10, vous voyez bien, et pas tout à fait encore. Hein,
bientôt.
Dans quelques minutes, secondes, oui, il sera 17. Vaut mieux dire secondes, parce qu'il y a plein de secondes dans des minutes, alors qu'il n'y a pas forcément des minutes dans des secondes. Donc on va dire secondes. Dans quelques secondes, une poignée de secondes. Tiens, Michel Drucker, il disait ça.
J'adore la poignée, poignée de secondes.
Quand il était sur RTL, Michel disait dans une poignée de secondes les informations sur RTL. Allez, on se retrouve après.
Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL.
Toujours avec Elise Moon, Laurent Baffi, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, Michel Bernier et Ariel Dombal. Je suis sûr, cher Ariel, que vous n'êtes pas insensible au charme du ministre de l'économie, Emmanuel Macron,
qui,
qui hier a lancé... C'est pas à vous que je parle, vous appelez Ariel, vous ?
Non, mais il est...
Vous appelez Homo, pas Ariel.
Pas laver son linge sale en famille. Alors, non, mais j'ai vu Madame Macron justement cette semaine.
Ah,
ouais, elle est charmante. Hein.
Madame Macron.
Oui, c'est pas le Macron.
Ah, est-ce qu'elle était à Amiens elle aussi? Alors Madame Macron avec Emmanuel, avec Manu, on va l'appeler
avec Manu.
Manu,
oui, Manu.
Manu pour lancer son mouvement En Marche. Hein, c'est le titre de son parti dont toute la presse parle.
C'est cool pour lui, c'est qu'il paye moitié prix dans le train. Hein.
Monsieur Macron.
Bah, avec sa femme.
Ah, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus âgée que lui. Hein.
Mais c'est assez joli comme histoire parce qu'elle était un peu son professeur.
Bah, pas un peu. Hein, c'était
donc
sa
elle
prof,
a flashé. Il a flashé sur la porte.
C'est mourir d'aimer, c'est l'histoire quasiment.
Ça se termine mieux quand même.
Ah bah, on espère pour lui que ça va se terminer mieux, mais c'est quand même, enfin pour elle surtout.
Oui, c'est ça.
Mais c'est quasi l'histoire d'Annie Girardot.
Et heureusement, c'était dans la bonne tranche d'âge, parce que si ça avait été plus tôt, ça aurait.
Qu'est-ce
peut-être...
que vous voulez dire, Ariel?
Il avait pas 11 ans. Quoi.
Voilà, c'est ça. Parce que rappelez-vous que mourir d'aimer, c'était, voilà, il n'avait pas l'âge d'aimer sa professeure.
Et à l'époque, la majorité était à 21 ans.
Exactement.
C'était comment la chanson?
Les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche mais je glisse, lentement vers ma destinée.
Nourrir m'aimer,
mourir d'aimer, mourir d'aimer.
vont être contents, monsieur Macron, qu'on parle d'eux comme ça.
Non, non, mais là, a priori, ça,
mais non, mais c'est
là,
une belle
ça
histoire va, d'amour.
Ça, là, ça fait longtemps, il n'y a plus de problème, a priori.
Ah oui, mais bon, à l'époque, effectivement, elle était quand même en culotte courte sur les. Enfin, pas en culotte
non,
courte.
Non, il n'était pas en slip.
Non, mais c'était quand même un jeune élève.
Il avait 16, 17, 17 ans.
Attends, je comprends pas. Il est sorti avec sa prof.
Ouais, et il est marié avec maintenant. Ils sont mariés.
Il s'appelait monsieur Macron avant.
Et ils ont quoi, 18 ans d'écart, je crois.
Alors que moi, j'étais sorti avec mon prof de maths, mais je ne l'ai pas épousé.
Par contre, ce jour, il a révélé.
Mais tu as fait la vilaine chose.
D'accord. Non, parce que j'imagine les soirées. Bernard, le tableau électrique ne marche plus. Faisons la vilaine chose.
Ah ben t'as appris à compter jusqu'à 69, j'espère.
Et puis Michel Formé.
C'est quand même toujours une belle histoire, évidemment.
Oui, mais...
Bah, c'est pas toujours évident. Moi, le jour où j'ai montré mon kiki à ma prof de sciences nat, elle a voulu le disséquer, quand même.
Elle a pris ça pour une grenouille ou
un tétard. Alors justement, ma question porte, parce que je vais quand même la poser, ma question,
oui.
Pour
oui.
Jonathan Gressens, qui habite On. On, c'est en Belgique. ON. Et la question porte sur Pascale Boittard. Pascale Boittard, elle est secrétaire d'État au gouvernement, et elle n'a pas pu s'empêcher d'envoyer une flèche à Emmanuel Macron via son compte Twitter, puisque lui a lancé évidemment un nouveau mouvement politique qui s'appelle En Marche. Elle a tweeté, Madame Boittard, « Écoutez, je marche seul » de Jean-Jacques Goldman, à bon entendeur.
Oh, c'est pas très gentil.
Ah oui, je marche seul pour évidemment...
Pour une femme qui s'appelle Boittard.
Mais justement, Madame Boittard, on ne la connaît pas si bien.
Non.
Elle est secrétaire d'État de quoi au gouvernement ?
Est-ce que c'est lié à l'économie ?
La claudication.
C'est lié à l'économie ou pas ?
À l'économie, non.
Au sport ?
Au sport, non.
Les anciens combattants ?
Non.
Les rapatriés ?
Non.
Les affaires sociales ?
Non.
N'importe quoi.
Non. L'éducation ?
Le travail ?
Conditions de la femme ?
Non, mais vous étiez tout près.
Des retraites ?
On était
caisses de retraite ?
Donc, était tout près.
Donc secrétaire d'État ?
Des vieux.
Personnes âgées. Bonne réponse de Michel Bernier. Madame Boittard est secrétaire d'État aux personnes âgées, proche de Manuel Valls en plus, et évidemment c'est elle qui a taclé Monsieur Macron.
Pourtant elle s'occupe de sa femme du coup.
Pascal Boittard, c'est vrai qu'on la connaît. Il y a des ministres comme ça, on ne sait pas vraiment qui c'est.
Ah non, non, bah même sa tête.
Oui, mais ils sont ministres depuis quand ?
Madame Boittard a été nommée secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie le 11 février dernier. Vous voyez,
voilà, c'est récent.
Oui, c'est récent.
Vous pensez alors qu'il veut être candidat à l'Élysée, monsieur Macron, parce que c'est ça l'intérêt.
Oui.
Bah là, en 2017, ça va faire un peu juste. Quand même.
Ah, vous croyez ?
Mais
vous
non,
croyez
il peut y aller.
Non, mais il a dit que si Hollande se présentait, il donnerait toutes ses voix, enfin, de son nouveau parti, En Marche.
En Marche, c'est beau comme En Marche.
Ouais.
Allez.
Alors, c'est ni de droite, ni de gauche. Hein.
On ne sait pas.
Et c'est ni du centre non plus, c'est nulle part en fait.
Donc, ni de droite, ni de gauche.
C'est du Macron pur, quoi. Ouais. C'est ça, en fait.
Mais c'est de droite, ce qu'on dit en général.
De quoi, Macron ?
C'est ce que disent les gens de gauche, disent que quand on dit ni de droite ni de gauche, ça veut dire droite.
Oui, mais pas M. Macron, puisque M. Macron, il est...
Oui. Puis à droite, il y a déjà Manuel Valls.
On est paumés. Hein.
Il vous plaît, M. Macron, physiquement, Ariel Dombal ?
Tu voudrais faire la vilaine chose avec lui ?
Contre le tableau électrique ?
RTL. Une question.
Top chrono.
Les auditeurs face aux grosses têtes.
Monsieur Savary est au téléphone. Bonjour Louis.
Bonjour Laurent.
Louis Savary.
Bonjour à tout le public, bonjour à toutes les grosses têtes.
Bonjour Louis.
Salut Louis.
Allez Loulou.
Vous êtes de la famille de Jérôme Savary ?
Absolument pas, non, pas du tout.
Est-ce qu'on vous surnomme Loulou ou pas, alors, comme le
dit Savary ? Oui, ma femme, mes collègues, un peu,
Loulou,
pas mal de monde, en effet.
Loulou de Saleux, vous êtes à Saleux dans la Somme.
Saleux !
Exactement, oui, à côté d'Amiens.
Tout près d'Amiens, ben voilà, là où a été lancé En Marche de M. Macron.
Ah. Exactement.
Et alors ?
Et je ne sais pas quoi en penser en fait.
Ah bah, écoutez, non, ça tombe bien, c'est pas ce qu'on vous demande, Louis.
Voilà, très bien, merci.
On vous demande de répondre à une question qui va venir, qui sera d'ailleurs cinématographique et un peu journalistique aussi, cette question. Et elle vous permettra en tout cas de partir en Bretagne, au domaine de Kerbastik. Hôtel magnifique, restaurant, façade du 18e siècle. J'ai déjà parlé des Polignac qui tiennent très bien leur château. Un hôtel 4 étoiles, une demeure de luxe. Et en plus, un chef cuisinier, Raphaël Dubroc, qui saura évidemment vous recevoir à table avec des compositions gastronomiques issues du potager bio. Rendez-vous compte.
Ce serait super.
Allez voir sur le domaine de kerbastik.com. On vous a demandé ce que vous faisiez dans la vie ou pas, Louis ?
Non, mais je peux vous le dire, je suis enseignant.
Non, on s'en fout.
Prof de quoi ou instituteur ou...
Non, professeur d'éco-gestion.
Professeur d'éco-gestion.
Vous êtes jamais tombé amoureux d'une de vos étudiantes?
Non, jamais, non, certainement pas, non. Puis je suis marié, tout va bien de ce côté-là.
Mais ah oui, donc... mais
surtout sa femme écoute. Alors,
c'est pas à la radio.
Louis, la question concerne la sortie du film Les Visiteurs 3. Vous savez que les critiques, évidemment, se sont un peu plaints ces derniers jours de ne pas avoir pu visionner le film. Alors évidemment, il a fallu que la plupart des journalistes de cinéma attendent la sortie du film en salle pour pouvoir le voir. Et donc, généralement, dans ces cas-là, une fois que le film est sorti, ils s'en donnent à cœur joie et se vengent parce qu'ils n'ont pas pu le voir avant. Oui, alors, ça donne des papiers.
L'article horrible dans le Figaro, je crois.
L'article horrible du Figaro, évidemment, c'est François Aubel et Étienne Sorin qui publient dans le Figaro une critique dont le titre est « Les Visiteurs 3 se paient notre tête ». Mais ça, c'est la critique du Figaro papier. Curieusement, sur le Figaro Internet, la critique des deux mêmes journalistes est encore plus dure. Enfin, pas le contenu, mais le titre est encore plus sévère.
Le titre de la critique des Visiteurs 3, c'est ça ?
Exactement. Oui. Quel titre ? Alors, écoutez, c'est pas compliqué. Je vais vous donner le premier mot du titre du Figaro.fr. C'est quel ?
Quelle merde, non ? Alors,
rajoutez quelque chose. Quel ?
Quel merdier, quel...
Une rime.
En médiéval. Quel... Imaginez que vous êtes au Moyen-Âge.
Quel merdasse, tout près.
Quel merdasse. Oui. Quel merdasse, c'est gagné ! Quelle merdasse!
Mais sire, quelle merdasse!
Et c'est le titre que les journalistes ont choisi sur le Figaro.fr. Bon, ils ont un petit peu édulcoré le titre dans la presse papier. Ça donne Les Visiteurs 3 se paient notre tête. Mais c'est vrai que le contenu de l'article, en revanche, est terrible. Je vous lis quelques extraits du contenu de l'article qui est pire que le titre. Ils ont réussi, et c'est une vraie révolution, réussi à faire un film qui paraît trop long dès la première minute. Il reste alors pour le spectateur 1h49 de souffrance. Jamais une marche vers l'échafaud n'a paru aussi longue.
Moi, j'ai vu un autre titre ce matin sur une autre vue, c'était un arrière-goût de fiente de porc.
Ah oui, quand même. Donc,
moi, j'ai vu Jacouille la merdouille.
Non, c'est violent.
Un peu plus loin, ils écrivent « Ce n'est là que le début d'interminables gesticulations et on n'a pas encore ri une seule fois. Sans doute parce qu'aucune scène n'est drôle et que tous les acteurs sont mauvais. » On imaginait qu'Alex Lutz, Harry Habitant, Franck Dubosc ou Karine Viard pourraient rafraîchir un peu cette comédie historique. Ils font surtout tapisserie, mais les perruques, elles, jouent très bien.
c'est un peu dur quand même.
Là, c'est trop dur. Carrément. Ça sonne faux. C'est tellement méchant que ça sonne faux. C'est pas possible que ce soit à ce point-là quand même. Mais c'est vrai que c'est assez drôle en même temps à lire quand, c'est pas, quand vous n'avez pas joué dans le film.
Oui, c'est ça, quand c'est méchant, c'est drôle. Ouais.
Quand c'est pas ton film, c'est mieux.
Ah, non, mais là, ça sent quand même les journalistes pas contents de ne pas avoir vu.
C'est un peu maigreur.
Oui, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a tout de même, il faut quand même se fier comme ça à ce qu'il y a dans l'air. Le premier était tellement, tellement réussi. Et cette idée, en effet, d'arriver chez ces bourgeois et de les ancêtres. Enfin, l'idée même est très bonne.
C'est vrai qu'il est vraiment chiant, le film.
T'as pas vu ce film, Ariel ? Si t'as rien à dire, tu peux fermer ta gueule.
Quelle merdasse, c'est encore c'est dur. Très violent quand même du Figaro, mais un titre qui vous permet, cher Louis, vous, de partir au domaine de Kerbastik.
Ah bah c'est super.
Vous irez
c'est
voir
super,
les Polignac.
Ok.
Oui, les Polignac sont des amis.
Et quand vous rentrez dans le domaine de Kerbastik et que vous voyez monsieur et madame le comte et la comtesse de Polignac, vous leur dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bins
Mais ne dites pas, pour la vilaine.
Allez, et puis de toute façon, il faut se faire son avis soi-même, donc allez voir Les Visiteurs 3, c'est quand même un film RTL.
Quelle merde!
C'est maintenant que tu le dis!
C'est génial!
Une question maintenant pour Agathe Fournier qui habite Toulouse. Et la question concerne Louis-Dominique Bourguignon. Et au moment où on tua Louis-Dominique Bourguignon, il cria : Je suis un malheureux, mon père et ma mère sont d'honnêtes gens. Mais qui était Louis-Dominique
Attends,
Bourguignon.
Au moment de mourir, il a dit ça ?
Oui, au moment
sur
de
l'échafaud.
Mourir. Au moment où on l'a tué.
Il a été sur l'échafaud.
Sur l'échafaud.
Il a été condamné à mort.
Il a été condamné à mort.
C'était les l'époque de la Révolution.
Alors
c'était un bourgeois, un noble.
On est le, je vais vous dire même la date très exactement. On est le 28 novembre 1721.
On l'a accusé d'avoir commis un crime.
Oh, plusieurs, sûrement même.
Ah oui, il a été condamné pour meurtre.
À tort ou à raison?
Alors à tort, à raison, c'était surtout. Je vais pas vous dire, autrement ce serait trop facile.
Mais pourquoi il a parlé de ses parents? Il est censé avoir tué ses parents?
Non, mon père et ma mère sont d'honnêtes gens. Je suis un malheureux.
On le connaît sous un autre nom?
Évidemment.
Cartouche.
Et c'est Cartouche, Louis-Dominique Bourguignon. Bonne réponse.
L'humoriste Cartouche. Ouais,
c'est ça, ouais. Mais non. Moi, je dois avouer que je ne sais pas qui est Cartouche.
Alors expliquez à Ariel qui est Cartouche.
Moi, je vois pas qui est Cartouche.
T'as jamais pris de cartouche, toi?
Mais c'est un pirate,
c'est un brigand.
C'était un bandit, mais dans quel domaine?
Dans la brigandise.
Un brigand, un chef.
Il détroussait les gens.
Un chef de bande, il a été condamné à mort pour vol, briganderie, arrêté avec une partie de sa bande, d'ailleurs, et on lui a demandé de donner les noms, d'ailleurs, de ceux qui faisaient partie de sa bande. Il a été joué par Jean-Paul Belmondo à l'écran
dans un
film avec Claudia Cardinal et Frédéric Diffenthal l'a joué à la télévision, un téléfilm qui va repasser prochainement. Louis-Dominique Garthausen, car il était d'origine allemande, dit Cartouche. On l'appelait aussi Louis-Dominique Bourguignon, car un de ses deux parents était tout de même français. Tonnelier de père en fils, et puis brigand ensuite.
Brigand.
Il s'est entraîné à couper les bourses.
Les bourses pleines d'écus.
Exact.
Comme des escarres.
Et non pas l'inverse.
Ça va bien, mec.
Ah, ça, c'est autre chose. Enfin, là aussi, j'ai des cartouches.
C'est marrant, il y a des trucs qui...
qui rentrent bien. Ouais.
Et il a fait l'objet alors de la curiosité du tout Paris mondain qui venait le voir en prison. Qui venaient le voir en cage, des comédiens même du théâtre français venaient l'examiner pour mieux le jouer ensuite au théâtre.
Vous
vous rendez compte?
C'était à l'Acteur Studio.
Et des dames de première distinction, nous dit-on, aussi venaient voir parce qu'il était assez beau.
Légendaire, beau.
Et oui, voilà.
Beau.
Il y avait des Ariel Dombal de l'époque.
Il est roué vif. Place de Grève à Paris.
Ça fait mal.
Et là, il crie « Je suis un malheureux. Mon père et ma mère sont d'honnêtes gens. »
C'est long quand on meurt comme ça?
Sur la roue?
Oui.
La roue, on vous brise les os.
C'est ça.
Non, mais il fascine parce qu'il était très beau. Alors, je comprends.
Il y a un quart d'heure, elle
ne
le connaissait pas. N'importe
quoi. Elle est totalement mytho.
Elle est géniale.
Non, mais elle est super. Non, mais...
Oh, elle est mytho.
Il aurait été moche, elle n'aurait même pas fait gaffe.
Génial.
Vous avez dit qu'il s'était...
Non, mais je défends mon Ariel, parce que Ariel nous explique effectivement...
Non, mais là, j'explique pas, c'est en forme de question. Oui, pourquoi est-ce qu'on allait le voir? Parce qu'il
fascinait, parce qu'il était beau. Si j'avais une femme comme toi, je mettrais un collier électrique.
elle ne le connaissait pas, elle nous l'a avoué, mais là, elle fait un petit résumé de ce qu'on a dit.
Voilà, 1721, il coupe les bourses à écus, mais mes parents étaient d'honnêtes gens, il finit dans le supplice de la roue et on va le voir en prison pieds nus, etc. Pourquoi est-ce qu'il fascine alors qu'il y a plein de brigands? Eh bien, c'est parce qu'il avait quelque chose
de
plus.
Oui, Cartouche avait peut-être un très gros stylo.
Bon, en tout cas, voilà, Cartouche que vous allez pouvoir revoir en téléfilm, je crois. C'est sur France 3, samedi soir, mais cette fois, c'est la version avec Frédéric Diffenthal. Une question maintenant pour Chantal Macuba qui habite Écouen dans le Val d'Oise.
Macuba, elle danse tous les soirs.
C'est une question littéraire et qui concerne une biographie. Une biographie signée Christophe Bellon, qu'on aura d'ailleurs au téléphone dans un instant. Monsieur Bellon est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille, enseignant à Sciences Po à Paris. Et monsieur Bellon va vous entendre essayer de retrouver le nom de celui qui fut chef du gouvernement à 11 reprises et 25 fois ministre.
Boileau ? Colbert, pardon.
Colbert, non. Et c'est Frédéric de Monico qui nous parle de ce livre dans le Figaro aujourd'hui. Un livre publié chez CNRS Éditions, 382 pages d'une biographie consacrée à qui, donc ?
Du 19e siècle ?
À cheval, puisque né en 1862 et mort en 1932.
Churchill ?
Churchill, non. C'est un Français.
Un Français. Il a donné son nom à des rues, j'imagine.
Ah oui, ça va de soi.
Il y en a beaucoup.
Ah oui, quand même, quand on a été 11 fois président du Conseil et 26 fois ministre, on donne son nom à des rues, comme vous dites.
Poincaré,
Boulanger.
Poincaré, Boulanger, non.
Casimir Perrier.
Casimir Perrier, non.
Division Leclerc.
Il a même, il a même reçu le prix Nobel de la paix en 1926.
Et on le connaît tous, évidemment.
Clémenceau. Et ben là, c'est là qu'on va voir qu'il sera intéressant de lire la biographie de notre invité au téléphone dans un instant, Monsieur Bellon, parce que manifestement, vous ne le connaissez pas bien et on ne le connaît pas suffisamment.
René Coty.
René Coty, non.
Mais il a été président de la République.
Président, non.
Son prénom, c'est pas Georges ?
Georges, non.
Tout ça pour qu'on s'en rappelle pas.
Ah bah si je vous donnais son prénom,
Georges Mandel.
Vous trouveriez tout de suite son nom.
Ah, il a un prénom, il a un prénom particulier.
Ah bah un petit peu.
Genre Isidore, enfin, un truc comme ça.
Sadi Carnot ?
Un prénom de l'époque. Sadi Carnot, non.
Un peu suranné, le prénom ?
Un peu suranné, oui, aujourd'hui. Ah, encore que c'est le genre
Adolphe de prénom... Thiers ?
Non, c'est le genre
Marcel
de...
Samba ?
Non, c'est le... c'est, le... c'est le genre de prénom qui revient à la mode.
Edgar ?
Non.
Yvon ?
Non.
Kevin ?
Non, mais écoutez...
Brandon Pompidou ?
Il a été, écoutez, président du Conseil, il a été, je vais vous donner les différents ministères, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice.
Lucien
Prosper.
Non, député de la Loire, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous
dire ? Pourquoi, évidemment ?
Est-ce que c'était un nom un peu... Est-ce que c'était un nom un peu noble ? Est-ce qu'il y avait une particule ?
Non, pas du tout.
Non.
Il a un nom en un seul...
Ah oui, oui.
Il était militaire ?
Un prénom, un nom. En tout cas, évidemment, il a été associé aux grands événements les plus marquants du début du XXe. C'est lui d'ailleurs qui a guidé en 1905 la séparation des églises et de l'État.
À Théodore quelque chose ?
Non, et pendant les années 20, il a évidemment tenté la réconciliation européenne.
Théodule.
Après la Première Guerre mondiale. Ah non, mais là, je suis très déçu. Hein.
Oh là là, on est nuls.
Et j'imagine Christophe Bellon qui est au téléphone.
Ah ouais, qui s'est ouvert les veines.
Qui ne dit rien. Vous ne dites rien, monsieur Bellon. Bonjour.
Non, mais bonjour, Laurent Ruquier. Bonjour à tous.
Vous avez un peu honte de nous.
Hein. Voyez que mes grosses têtes vont avoir besoin de votre biographie pour en savoir plus sur celui dont elles recherchent encore le nom.
Écoutez, mesdames et messieurs, il a été votre ministre un peu de tutelle, puisque aux Beaux-Arts, c'était le ministre de la Culture qui a aussi beaucoup œuvré. Pour cette politique au gouvernement. Alors je ne sais pas si
Jacques
je peux
Lange.
Donner le
nom. Ah non, pour l'instant, vous ne donnez pas le nom. Non, mes camarades grosses têtes continuent à poser des questions.
Vous avez dit Beaux-Arts ? Comme c'est Beaux-Arts.
Oui. Il a écrit des livres également ou il est connu uniquement pour son parcours politique ?
Il est connu uniquement pour son parcours politique et surtout pour les concordances des temps qu'il existe entre ce qu'il a fait lui et ce qu'on vit aujourd'hui.
Becherel.
Non.
Il a une rue dans quel quartier ?
Oh non, écoutez, il a
des rues. Oui, il faut donner le quartier.
Il a des rues partout. Hein.
Il a une rue qui est petite, à laquelle on n'écrit pas parce qu'il n'y a pas de numéro, ce qui est un peu dommage pour la réputation du personnage, mais qui longe le Palais Bourbon à Paris, donc qui est très judicieusement situé. Et après le général de Gaulle, c'est l'homme politique français qui a donné son nom à le plus grand nombre de rues France.
Ah oui, donc il y en a partout.
À Cambrai, il y a une place qui porte son nom. À Amiens, il y a une place qui porte
Jules
son nom.
Jules quelque chose
non. À Levallois-Perret, une rue porte
Balkany.
Son nom.
Balkany.
Non.
À Strasbourg, une station de tram porte son nom. À Mulhouse, une avenue. À Reims, une place.
Ah oui.
À Évreux, un lycée. À Gap, un lycée. À Dijon, une avenue. Porte
Léon,
son nom.
Léon.
Non. À Vesoul, une avenue. À Aix-en-Provence, un boulevard porte son nom.
Oh, oui.
Et même une promotion de l'ENA a décidé de donner son nom à l'année en cours.
Il vous reste 30 secondes pour retrouver son nom.
Il faut qu'on trouve son
nom. Vous avez honte.
On a honte.
Cher grosse tête, Florian Gazan, Ariel Dombasle. C'est sur vous que je compte.
Oui, mais arrêtez.
Mais dis donc, nous, on est les deux.
Aix-en-Provence, il y a le cours Mirabeau, c'est pas ça ?
Je pourrais dire deux, vous serez d'accord. D'accord, Monsieur Bellon, dans un instant, je pourrais dire deux qui ne sont pas...
Ils sont pas malicieux.
Ils ne sont pas comme le nom que nous cherchons, n'est-ce pas ?
Ils sont pas judicieux, ils sont pas la palice.
Il est malin comme
un singe.
Vous n'êtes pas brillant comme Aristide.
Évidemment.
Mais qui appelle son enfant Aristide aujourd'hui ? Personne.
Aristide brillant, c'était quand même trouvable.
Oui, c'était trouvable.
Alors pourquoi il est si méconnu encore, Aristide brillant ? Manifestement.
Parce que finalement, toute son œuvre qui est extrêmement riche, vu la titulature que vous avez expliquée tout à l'heure, la crise économique de 1929 va s'abattre sur l'Europe puis sur la France et finalement détruire tous ses efforts en matière de pacification européenne. Tous les efforts des années 20 qui servaient à bâtir la paix après la guerre ont été réduits à néant parce que l'économique a supplanté le politique. Et nous avons eu après les années 30 et tout ce que nous savons avec. En revanche, il y a une question qu'il a traitée à fond et qui est plus méconnue lorsqu'on s'interroge sur son nom, mais qui aujourd'hui est en pleine actualité, c'est la laïcité. Vous aviez dit qu'il a été le rapporteur de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et à ce titre-là, il a été un peu le père de la laïcité moderne.
Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter dans la valise RTL, si vous me le permettez, monsieur Bellon, votre livre. Manifestement, il sera utile à tout le monde. Aristide Briand, chez CNRS Édition. Je vous remercie pour votre témoignage, monsieur Bellon.
Merci beaucoup.
Une question pour Martin Zimanski, qui habite Guichainville, qui a dit « La télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage, mais qui est surhumain, c'est de l'éteindre. »
Un Français.
Un Français, oui.
Il est vivant ?
Il est vivant.
C'est un présentateur télé ?
Pas du tout. Un romancier, essayiste.
Il a de l'humour ?
De l'humour, c'est pas ce qui caractérise le plus. C'est pas Finkielkraut, mais c'est vrai qu'on peut considérer qu'il est aussi un peu philosophe à sa façon.
Dormesson,
non.
Onfray.
Romancier, essayiste, c'est pas Michel Onfray. La télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage, mais qui est surhumain, c'est de l'éteindre.
Zemmour.
Muret, non.
Zemmour,
il est philosophe.
Muret, il est mort.
Ah, lui, il est vivant, lui.
Ah, lui, il est vivant.
Philippe Solers.
Philippe Solers, non.
Bruckner.
C'est Pascal Bruckner. Oh, bonne réponse de Michel Bernier. Je sens, Michel, que vous allez adorer la citation suivante pour Pamela Zamoun, qui habite Lantilly.
Non.
C'est bien parce que ça fait pas de pute comme,
comme Pamela
nom.
Zamoun, elle habite dans le Rhône, écoutez. Oui, dis bonjour.
Moi, j'aime bien, moi. Ouais, moi je connais. Quand ça se finit par Moon, j'aime bien.
Elisa Moon, c'est bien. Comme
et en plus, elle nous envoie un petit message sympa, Pamela. Dis bonjour à toutes les grosses têtes. J'aimerais être associée à une question afin de tenter de gagner 300 euros. Je vous ai découvert, monsieur Ruquier, sur l'autre station et depuis, je ne me lasse pas de vous écouter. Votre équipe est topissime.
Voilà. Merci, Pamela.
Vous m'apportez ma surdose de rire quotidien et grâce au podcast, je n'en perds pas une miette, nous dit Pamela. Alors voici la citation qui va peut-être faire gagner Pamela Zamoun à Lantilly, qui a dit « Je fais un régime formidable. On mange ce qu'on veut, quand on veut et autant qu'on veut. Ça ne fait pas perdre du poids, mais c'est très facile à suivre. »
Jean-Pierre Foucault.
Jean-Pierre Foucault. Non.
Est-ce que c'est quelqu'un qui avait bon appétit ou qui a bon appétit?
Orson Welles.
Orson Welles, non.
C'est
français.
C'est un homme ?
C'est français, c'est une femme, évidemment.
Ah.
Véronique Genest.
Véronique Genest, non.
Catherine Deneuve,
non.
Véronique Boccolini.
Non, c'est facile.
Noël Robin ?
Non.
Valérie Damido ?
Non.
Marianne James ?
Anne Roumanoff.
Anne Roumanoff, évidemment, elle parle toujours de ses régimes. Anne Roumanoff, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question maintenant, citation pour Hugo Palizzi, qui habite Mani, dans le Nord.
Zamoun a perdu 300 euros, quand même.
Ah oui, Pamela.
Pamela,
à cause d'Anne Roumanoff et de Christophe Beaugrand, a perdu 300 euros. Hugo
Désolé.
Palizzi tente sa chance maintenant avec cette citation. Sur mes murs, j'ai des photos des pièces de l'étage du dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de monter.
Oh la feignasse.
J'adore.
Ça, c'est une phrase de grosse feignasse.
C'est drôle, ça.
Qui a dit ça?
C'est un homme.
C'est un dadaïste.
Alors, c'est pas un dadaïste.
C'est quelqu'un qui est handicapé.
C'est un homme, c'est pas un handicapé. Non.
Il est vivant.
Il est mort.
Ah, il est mort.
Français.
Il est mort à l'âge de 100 ans.
Ah oui,
oh là là.
Est-ce qu'il était français ?
Charles Vanel ?
Et il n'était pas français.
George Burns.
Et c'est George Burns. Bonne réponse de Florian Gavant. Alors ça, je dois dire que Florian Gavant a une mémoire incroyable.
C'est qui déjà,
George Burns ? C'est un comédien de vaudeville qui a fait du cinéma, de la radio et de la télévision aux États-Unis. Et de temps en temps, je glisse une citation de ce George Burns. Et je dois dire que le seul qui retient son nom à chaque fois, c'est Florian Gavant. Bravo Florian. Non mais je ne peux que m'incliner, si j'ose dire.
Parce voilà.
Que, en tout cas, c'est super drôle.
Il faut faire gaffe. Qui a dit, ce sera pour Cynthia Fini qui habite Lille. Le comble de l'optimisme, c'est d'être borgne, unijambiste et tout de même de réussir à avoir bon pied, bon oeil.
Vous avez des
Non.
Donc ça, c'est forcément français.
C'est français, ben oui.
Pierre forcément. Doris.
Pierre Doris, non.
Raymond Devos.
Mais c'est quelqu'un un peu de cette époque-là.
Francis Blanche,
non.
Jean-Dac.
Quelqu'un qui a travaillé avec tous ces gens-là.
Maurice Orgue,
non.
Maurice Biro,
bonne réponse de Michel Bernier et Laurent Baffy.
RTL. Devinez qui est l'invité mystère.
Bienvenue aux grosses têtes. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure notre intervenant du CNRS qui nous parlait d'Aristide Briand. Vous auriez retrouvé, vous, le nom d'Aristide Briand, invité mystère ?
Je crois que oui.
Vous croyez que oui ?
Oh, un télo. Oh là là,
voilà un une bon. Indication qui, en tout cas, place notre invité mystère bien au-dessus de vous, cher
Ça montre surtout qu'il se la pète un petit peu. Hein.
Ouais. C'est ce que j'attendais.
Alors, vous êtes
Est-ce que vous êtes un homme ?
Oui.
Est-ce que vous avez déjà pris le Concorde ?
Oui. Est-ce que vous dire mon âge.
Est-ce que vous êtes marié ?
Oui.
Est-ce que votre épouse est connue également ?
Non.
Vous avez des enfants ?
Oui.
Des arrière-petits-enfants ?
Oui.
Est-ce que les enfants sont connus ?
Non. Les arrières, oui.
Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui suscite l'hilarité chez nos contemporains ?
Ça peut arriver.
Ah, vous avez beaucoup d'humour, si, on peut le dire. Mais ce n'est pas son métier principal.
Pas votre métier. Ouais.
Vous avez déjà publié ?
Trop.
Trop ?
Trop. Est-ce qu'on connaît vos engagements politiques ?
Oui.
Est-ce que vous êtes un sportif ?
Pas du tout.
Ah non.
Est-ce que vous croulez sous les récompenses ?
Il y en a eu, mais jamais assez.
Ah, il se la pète vraiment. Alors.
Vous voyez qu'il est drôle quand même.
Est-ce qu'il vous arrive de passer sur le petit écran ?
Ça m'arrive.
En tant qu'invité ?
Oui.
Mais vous n'y avez jamais travaillé à la télévision ?
Non, et rarement réinvité.
Ah. Rarement réinvité. Ah.
Pourquoi vous dites ça ?
Non, mais non, c'est comme ça.
Ah, il fait des blagues.
Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller au Panama ?
Oui.
Avec des grosses valises ?
Non, vide.
Est-ce que vous êtes parisien ?
Vous y êtes allé pour écrire, j'imagine, pour...
Non, pour regarder le canal.
Ah, très bien.
L'urologue. Oh.
Est-ce que vous avez un pseudonyme ?
Oui.
Un pseudonyme avec un seul nom ou un prénom, un nom ?
Un prénom et un nom.
Est-ce qu'on vous voit dans la presse people
en fait,
de
vous avez gardé, on peut le dire, votre prénom, mais vous avez changé votre nom.
Bravo, ça c'est un indice.
Est-ce qu'on vous voit dans la presse people de temps en temps ?
Il y a longtemps.
Il y a longtemps. Voici un premier indice musical.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef. Au temps glorieux de la web, j'avais des ficelles au képi. Au temps béni des colonies, on pense encore à toi, au Rwanda.
Une chanson un peu raciste à l'époque.
Non,
hein.
Pas du tout. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça, les magnifiques.
C'est Tintin en Congo. Là.
Le temps des colonies, c'est Michel Sartre.
Vous avez vécu dans les colonies, justement ?
Non, non, mais j'ai un petit lien avec les colonies.
C'est un bon indice, vous êtes d'accord, invité
Est-ce que vous avez fait
excellent
la guerre
indice.
Excellent indice.
Est-ce que le caoutchouc vous dit quelque chose ?
Ah, vous êtes très très fort.
Ne dites rien, mais je pense qu'Ariel Dombal a identifié, oui. notre invité mystère.
Ariel
et en plus, c'est la première à avoir compris le jeu, c'est-à-dire à poser une question à l'invité que les autres ne peuvent pas comprendre et qui me signifie qu'elle a trouvé qui était l'invité mystère.
Est-ce que vous avez fait de la politique, invité ?
Pas directement.
Pas directement.
Est-ce que vous avez été un écriveur de discours pour un homme politique ?
Vous avez aussi trouvé.
Voici, d'ailleurs, le deuxième indice qui va vous confirmer ça.
Ah. Il a son beau chapeau, il a son long manteau, il a son chien, le brave, le gros qui bave, il a le regard des sages, et la force tranquille.
Tonton, c'était une chanson de Renaud Tonton. Voilà, bon indice encore pour identifier notre invité mystère. Alors, j'ai des tas de propositions. Michel Bernier pense à Jacques Attali, mais vous n'êtes pas Jacques Attali. Laurent Baffy me propose quoi, condom ?
Oui, par rapport aux capotes, vous aimez le caoutchouc.
C'est pour ça que j'ai mis Michelin, moi.
Mais j'ai fait une autre
proposition. Ah, bah oui, Elie Moon me propose Michelin, monsieur Michelin.
Et j'en ai fait une autre, Laurent.
Ah, mais Elie Moon, en revanche, et Laurent Baffy ont identifié aussi notre invité mystère.
Et moi aussi.
Et vous aussi, Ariel Dombal.
Moi en premier.
Vous êtes trois en premier, oui.
Et avec toi en premier.
Donc moi, ça doit pas être ça, alors.
Et vous, Beaugrand, non, vous me proposez Georges-Marc Benamou, mais notre invité n'est pas Georges-Marc Benamou. Florian Gazan a identifié aussi notre invité. En fait, vous êtes 1, 2, 3, 4 à savoir qui est notre invité. Seul Michel Bernier et Christophe Beaugrand continuent à chercher.
Vous n'avez rien chanté, donc évidemment, on ne va pas vous trouver.
Nous, vous auriez été numéro 1 du top 50, on vous aurait trouvé.
Ah, si, j'ai chanté.
Ah, vous avez chanté.
Mais voici un indice qui peut aider quand même mes deux camarades, mes deux grosses têtes, pour l'instant, chercheuses, si j'ose dire. Immortel, ça c'est
oui,
une indication de plus.
Oui, d'un académique.
Eh oui, c'est un académicien.
Immortel.
Parce que nous, autant Lara Fabian on aurait trouvé.
Oui.
Non, mais on vous demande pas de nous dire ce que vous auriez trouvé, bah, mais alors, trouvez.
Encore un dernier petit indice pour vous. Allez. Ah ben voilà, quand on donne le prénom, tout de suite on trouve
si, alors
le nom.
Je crois, que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Ah oui, on vous a vu dans la presse People il n'y a pas si longtemps avec une dame blonde.
Oui.
Ah, ben voilà, je vous ai trouvé.
Il adore
alors.
Quand on lui parle de ça.
Ah oui, pardon, excusez-moi.
Bah, dès qu'il y a de l'info, il est là.
Hein. Alors attention, toutes les grosses têtes savent maintenant qui vous êtes. Notre invité mystère, c'est...
Éric Orsenna.
Et voilà. Éric Orsenna était bien notre invité mystère. Éric Orsenna de l'Académie française, comme on dit, d'où la chanson immortelle, évidemment, de Lara Fabian. Son nouveau livre, nouveau roman, paru chez Stock, s'appelle « L'origine de nos amours ». On va y venir dans un instant. Un père, un fils, des histoires de famille qui nous emmènent jusqu'à Trinidad, à Cuba. Mais c'est vrai que mes camarades ont cherché un petit moment, mais ils ont trouvé assez rapidement. C'est Ariel Dombasle, il faut dire, qui a été la première à vous identifier.
Quel talent.
Bravo Ariel. Pourquoi ?
Non, mais parce que j'avais lu les livres.
Et que
Ce merveilleux indice du caoutchouc, très intelligemment.
C'est sûr que c'est vrai que voilà.
Mais il n'y a pas eu l'indice du caoutchouc, c'est vous qui l'avez donné le caoutchouc.
Oui, c'est moi qui ai eu... oui, voilà, mais enfin, voilà. Bon, j'avais lu. Oui.
Non, mais elle se trouvait très brillante.
C'est le temps des colonies voilà, qui vous a fait penser, évidemment. C'est le Goncourt que vous aviez eu, n'est-ce pas ?
C'est le Goncourt.
Avec l'exposition coloniale.
Il y a du temps, il y a du temps.
C'est en quelle année l'exposition coloniale ?
88.
Voilà. Oui, le roman, hein, pas l'exposition.
88, 31.
Et ben moi, c'est ce 31. Livre-là c'est que j'avais
ça.
Lu.
C'est pour ça que je connaissais Aristide Briand.
Ah oui, évidemment. L'exposition coloniale.
Parce que j'avais fait quelques études sur cette époque, très intéressantes. Et c'est un personnage passionnant parce qu'il avait vraiment compris qu'une autre guerre était possible. Après 1918, on pensait que c'était fini. Et lui pensait qu'il y avait en germe une autre guerre qui allait arriver. Et toute sa vie, cette partie de sa vie, il a essayé de se battre pour un rapprochement avec l'Allemagne pour la paix. C'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel. Donc c'est un personnage absolument magnifique.
Mais j'en reviens à votre prix à vous, parce que l'exposition coloniale, c'est assez rare quand même, a obtenu le prix Goncourt et le prix Goncourt des lycéens la même année.
Oui. Et alors il y a une autre histoire parce que sur ce livre, parce qu'à l'époque, on votait pour le prix Renaudot la veille. Et j'avais eu le prix Renaudot la veille. Et le matin, ma femme me dit, le président, donc François Mitterrand,
quelle
t'a
femme,
appelé,
parce qu'il faut
le
raccourcir, hein.
Le singulier, il peut arriver qu'on préfère. François Mitterrand m'appelle et je lui dis, non, tout va bien, j'ai eu le prix Renaudot. Il me dit, oui, mais vous êtes aussi, vous pouvez avoir le Goncourt. Et alors je lui dis, non, toute ma vie, j'étais deuxième, c'est parfait. Et imaginez la voix de François Mitterrand qui dit, être numéro un, c'est pas mal.
Alors, venons-en à l'origine de nos amours. C'est le titre de votre nouveau roman, Éric Orsenna. Je vais lire, après on parlera de la suite, mais quand même, je vais lire les premières lignes parce que je trouve que ça explique bien. C'est un bon pitch, finalement, les premières lignes de votre livre. Un jour, je me suis remarié. Le lendemain, mon père quittait son domicile. Entre les deux événements, personne dans la famille n'a fait le lien. Et pourtant, mon frère est psychiatre. J'avais ma petite idée, mais j'ai préféré la garder pour moi. Mon père, je le connaissais mieux que personne. Pour une raison toute simple, nous avions divorcé ensemble. Lui de ma mère, moi de ma première femme, Nathalie. Lui le lundi, moi le mercredi, de la même fin juin 1975. Là, on entre tout de suite dans le vif du sujet.
Mais oui, au 50e livre, si on n'arrive pas à entrer directement dans le sujet, c'est qu'il faut quand même changer de métier. Ouais. Vous comprenez ?
Non, mais c'est très rare, vous savez, c'est très rare qu'on puisse pitcher un livre en lisant uniquement les premières lignes.
Mais oui, mais parce que les premières lignes me sont arrivées comme ça, un jour que je voyageais. Et donc, après, j'ai continué. Les premiers livres ont été donnés. Vous savez, vous avez un livre qui vous arrive parce que vous ne comprenez pas quelque chose, parce que vous avez une douleur particulière, où il y a un mot qui vient, où il y a une phrase qui vient. Et puis, il y a des livres que vous mettez très, très longtemps à écrire, et puis d'autres qui coulent comme ça, parce que les premières phrases, parce que vous en donnez. Et un livre, c'est un ton, une chanson, quelque chose comme ça.
Mais est-ce que vous pensez aussi à séduire le lecteur au moment où vous écrivez, ou vous n'y pensez pas ?
Non, il y a des livres dont vous avez absolument besoin. C'est-à-dire, à un moment donné, vous dites, ce livre-là, j'ai envie de l'écrire. Voilà, mon père était mort 3 ans avant, et j'avais envie de raconter l'histoire qui nous est arrivée.
Et pourquoi avez-vous dit tout à l'heure que vous aviez trop écrit ? Trop publié en tout cas.
Trop publié parce que plus je voyage, plus je rencontre des gens, plus je rencontre des histoires, je raconte des histoires qui sont de plus en plus intéressantes, je trouve, et que les livres ont en général une relation avec la lenteur en même temps.
Et pour quelle raison cette histoire familiale nous entraîne jusqu'à Trinidad et dans les années 1830 même?
Parce qu'on avait une légende familiale et personne n'avait été vraiment y voir. Et la légende familiale, c'était qu'on venait de Cuba, pas du Mexique, mais de Cuba. Et donc, nos oncles d'Amérique étaient des oncles cubains. Et puis mon père, quand il a pris sa retraite, a dit « je vais aller y voir de plus près ». Il a mené l'enquête et c'est vrai. C'est-à-dire, de son côté, tout le monde est cubain pendant tout le 19e siècle.
D'où évidemment la chanson qu'on a entendue aussi tout à l'heure, qui donnait en plus le prénom de notre invité, Eric, les états d'âme. Eric, c'est ce qui vous a aidé, vous
Absolument, très fort. Voilà.
Ça, c'est très fort. Mais j'ai un petit cadeau pour Ariel.
Ah, très bien.
Parce que je ne savais pas qu'elle était là. Cette fois-là. Et il se trouve qu'à l'Académie française, vous savez, quand quelqu'un arrive, il y a quelqu'un qui le reçoit. Et donc, je dois recevoir exactement dans 10 jours Marc Lambron, qui est un écrivain, un
nouvel
romancier.
Nouvel académicien, donc.
Donc, nouvel académicien, et qui tient une chronique du temps qui passe régulièrement dans différents journaux. Et notamment, il fait des portraits. Et cet après-midi, je vais lire à l'Académie ce projet de discours. Et voilà, et j'aborde le portrait, écrit donc par Marc Lambron, de mademoiselle Ariel Dombasle. D'elle, on dirait volontiers qu'elle est attentive par nature et irréelle par résolution. Elle a choisi les égards pour les autres et la poésie pour elle-même. Quant à l'irréalité, c'est celle des femmes fidèles à leur étoile qui traversent la vie comme on raconte une histoire, un enfant invisible. Donc dans 10 jours... je vous rendrai hommage solennellement.
Je te mets 2.
Voilà.
mais ça m'émeut, c'est merveilleux.
En tout cas, très
beau portrait d'Ariel.
Quelle merveille.
Et c'est donc un académicien français qui a fait ce portrait d'Ariel Dombasle, Marc Lambron. Voilà. Je dois dire qu'il est très juste parce que c'est
magnifique
deux qualificatifs
exactement à la réalité.
Mais c'est totalement elle, et attentive parce que c'est vrai,
très attentive aux autres,
et irréelle parce que c'est vrai qu'elle est irréelle. Je trouve que c'est les deux qualificatifs qui vous vont le mieux.
Je connais un académicien qui a envie de faire la vilaine chose.
Et voilà un académicien qui est démasqué.
L'origine de nos amours, c'est signé Eric Orsenna, c'est son nouveau roman, c'est d'avance un succès. Bah oui, à chaque fois c'est un succès, monsieur Orsenna, quand même.
Écoutez, ça va bien.
Vos lecteurs vous suivent chez Stock, c'est le tout nouveau, l'origine de nos amours. Merci d'être passé par les grosses têtes avant le Quai Conti.